Mandala Chakra.
Se présente.
Reglantica.
Le replay, ça s'est passé sur Witches Radio.
Witches Radio.
Bienvenue dans l'univers de Mandala.
Eh bien, bien le bonsoir mes amis de Witches Radio, très content de vous retrouver ce vendredi soir pour un nouveau volet de Godmandica. Je sais que vous êtes nombreux à m'avoir écrit pour me demander, tiens Mandala, quand est-ce que tu vas relancer donc quelques émissions de Godmandica? C'est vrai qu'on avait passé donc la saison passée à tester de nouveaux concepts comme la nuit des magiciens, également Vibration Nocturne, Bienvenue en Arcadie, l'actualité des sorcières et sans oublier bien sûr les débats aussi et Libre Antenne. Alors je me suis dit, tiens, oui, Godmandica, pourquoi pas, hein, j'ai encore des sujets à partager, hein, c'est pas le sujet qui manque. Je vais même vous avouer que j'avais un petit peu mis Godmandica aux oubliettes, parce que voilà, d'abord pour tester des nouveaux concepts d'émission, et puis parce que l'équipe du vendredi soir s'agrandit de plus en plus, donc voilà, il faut trouver des petites places pour tout le monde aussi. Et puis en même temps, c'est parce que, les sujets assez basiques de la magie avaient pratiquement tous été traités, et si je voulais relancer donc des nouveaux volets de Godmandica, j'étais obligé d'aller dans un niveau un petit peu plus élevé de la magie, donc un niveau peut-être plus tabou, plus secret. Mais sinon les thèmes, j'en ai plein, j'en ai encore plein dans mes tiroirs, dans mes grimoires et surtout dans ma tête, quoi. Donc voilà, et aujourd'hui je me suis dit, comme on vit quand même dans une époque assez difficile, hein, une époque où règne la guerre, la violence et beaucoup de conflits d'égo, mais je me suis dit pourquoi pas parler de l'amour. L'amour, c'est quand même une notion, une énergie qui a fait tourner le monde depuis sa création, et puis je trouve que parler d'amour, de magie d'amour en tout cas, de retour d'affection, est beaucoup moins tabou que de parler de guerre et de violence, parce que mon principe à moi et ma manière de vivre a toujours été ce slogan, suivi du slogan, je veux dire, hein, fait de l'amour et pas la guerre. Alors aujourd'hui donc j'ai envie de vous parler de magie d'amour et de retour d'affection, parce que il y avait une époque où les grimoires grouillaient de ce genre de rituel, et c'est la magie d'amour, eh bien c'est, ça peut parfois aussi non seulement sauver un couple, sauver une relation amoureuse, mais aussi donc donner un petit coup de pouce pour rencontrer son âme sœur. Alors pour donner une définition donc de la magie d'amour dans l'univers des sorciers et des sorcières, eh bien moi je vous dirais en quelques mots que la magie d'amour, dit également donc magie rouge ou même magie rose, consiste avant tout à faire venir donc ou même revenir l'amour dans sa vie, qui est d'ailleurs considéré comme le piment de la vie. Hein, quand l'amour va dans la vie, on jure que tout va bien dans la vie. C'est ce qu'on peut, d'ailleurs, ce qu'on peut utiliser cette magie dans plusieurs domaines, hein, de la magie d'amour, parce que par exemple, on peut rencontrer son âme sœur. On va appeler cette magie-là la magie d'union des âmes sœurs. On peut aussi utiliser les rituels de la magie d'amour pour régénérer un amour du couple dans sa séparation. Donc, il y a un couple qui va mal, qui est bancal, qui pourra se séparer pour xème milliers de raisons. Hein, vous savez que les êtres humains sont parfois têtus et puis parfois des petites anecdotes, des petites disputes ou quoi que ce soit peut créer des problèmes dans un couple. Eh bien, un petit coup de pouce magique pour sauver la situation et pour que les enfants, si vous en avez entre temps, soient heureux et gardent leur papa, leur maman près d'eux. Eh bien, là également, donc on peut employer la magie du retour d'affection, ou même également dans un couple, un jeune couple, hein, vous êtes fiancé, une petite dispute ou quoi que ce soit, comme il faut mieux faire l'amour que la guerre, un petit rituel, un petit coup de pouce, ça peut parfois faire sauter donc les égos. Et puis on peut aussi donc utiliser donc en plus de régénérer l'amour dans un couple, la magie d'amour simplement pour provoquer donc des sentiments amoureux chez une personne. Donc voilà, une personne, on dit tiens, un petit coup de pouce magique pour qu'elle s'intéresse un peu plus à moi, et on appelle ça dans ce cadre-là donc la magie de provocation sentimentale. Donc on retient, hein, là il y a la magie donc de l'union des âmes sœurs quand on veut rencontrer son âme sœur, il y a la magie du retour d'affection quand on veut réparer un amour qui est cassé, hein, donc faire revenir d'être aimé à soi, pour reprendre l'expression de certains marabouts, et aussi donc la magie de provocation sentimentale, c'est provoquer de l'amour, hein, quand celui-ci est difficile à provoquer. Vous savez, on peut se dire, au niveau d'ontologie, moi, même Mandala, provoquer de l'amour, est-ce que ce d'ontologique physiquement convenable. Ben, vous savez que quand vous draguez quelqu'un, hein, je parle des, pour les filles, pour les garçons, hein, je vous mets tout le monde dans le même sac. Quand vous faites de la drague, vous provoquez de l'amour aussi. Hein. Quand quelqu'un fait son beau baratin, met des parfums séduisants, des belles robes et qu'on fait tout son cinéma de drague, parce que la drague fait partie de la vie. Hein, regardez les animaux, les pigeons par exemple, eh bien le monsieur pigeon, le beau mâle, quand il veut draguer sa femelle, il va faire une petite danse, il va montrer ses belles plumes, il va tournoyer autour d'elle et tchic-tchac. Le paon aussi, hein, le paon quand il fait la roue, hein, c'est pas pour vous faire plaisir qu'il fait la roue, c'est pour faire plaisir à sa femelle. Quand il fait la belle roue du paon, je parle bien de l'oiseau, ça fait plaisir à sa femelle. Les oiseaux également, ils ont des paras, tout de ça, on retrouve ça dans toute la nature. Alors il y a même des rituels amoureux peut-être plus agressifs, hein, dans les meutes par exemple de cerfs. Eh bien là, ça, le rituel amoureux, c'est un combat de cerfs, hein, et le gagnant, hein, attention, ils se combattent mais ils se font pas trop mal, hein, c'est plutôt un combat, j'irais, symbolique. Et le gagnant entre les deux cerfs, c'est lui qui reçoit, enfin qui reçoit, c'est plutôt à lui que la femelle va s'intéresser, hein. Et je crois que c'est une force de la nature dans ce cas-là, là où dans l'esprit de la femelle, elle se dit je veux le plus fort de deux, hein, donc ils se battent. Moi je vois ça vraiment, c'est un peu comme si vous ils joueraient au dé ou une partie de poker, leur femelle. Évidemment, c'est le plus vaillant qui va la rapporter. Et donc, le cerf qui va gagner va rapporter sa femelle. Bien, ça fait partie de la drogue. Et les humains n'y échappent pas. Quand vous draguez quelqu'un, peu importe la méthode que vous employez, hein, séduire par des beaux vêtements, un beau parfum, un beau baratin, tout ce qui va avec, vous êtes en mode drague. Et donc, vous échappez pas à cette loi de la nature. Et donc, une chose importante, en tout cas, voilà, que j'ai envie de parler d'amour et surtout cette forme, pas de censure chez moi, pas de sujet tabou, voilà, et pas de problème de déontologie non plus. J'ai la conscience tranquille de parler d'amour. J'aurais moi la conscience tellement tranquille. Je voudrais parler de guerre ou de haine, mais ça ne viendra jamais. Ça fait partie des thèmes de Code Mantica, encore heureux d'ailleurs. Et si vous voulez m'écrire, donc pour me poser des questions en relation avec la magie d'amour, hein, n'hésitez pas, parce que j'ai quand même un petit côté spécialiste dans le domaine. Hein. Il faut savoir donc que durant mon adolescence et même un peu après, j'avais une amie qui était grande prêtresse, une amie avec qui j'ai fait des études, hein, c'est que j'étais à l'ULB, j'étais déjà plus trop ado, j'étais un moitié adulte, moitié ado, et donc elle était grecque, c'est une grecque, hein, qui venait faire ses études en Belgique, et puis on a sympathisé, m'a invité chez elle dans son pays aussi, et c'était en fait une grande prêtresse, donc de la magie d'Aphrodite, la magie d'amour, elle avait étudié tout ça, fait des stages et tout ça. Alors l'univers a fait que, hein, les sorciers, les prêtresses, ça se rencontre, vous voyez, il y a toujours des lieux, des nœuds bizarres qui se passent dans la vie. Et donc, on est devenus des amis, on est toujours amis d'ailleurs à notre époque, hein, on se côtoie encore de temps en temps, malgré qu'on habite loin de l'autre, parce qu'elle est retournée vivre en Grèce en attendant. Mais en allant donc lui rendre visite dans son pays, j'ai eu l'occasion donc de faire un stage de 3 mois, donc dans son coven, où j'ai été initié donc à la magie d'amour. Elle m'a même appris à déchiffrer donc certains manuscrits grecs, parce que moi le grec c'était du chinois, hein, pour une façon de parler. Eh bien voilà, j'arrive à décrypter un petit peu l'écriture grecque aussi. Et puis je me suis intéressé au sujet, donc j'étais fouiné dans des vieux grimoires, j'ai étudié la question, et donc j'en ai fait tout le tour de la magie d'amour. Et donc voilà, étant entre guillemets, hein, plus ou moins initié à la magie d'amour, je l'ai initié, j'ai quand même passé des années à étudier, à la pratiquer et à l'expérimenter, toutes ces formes et toutes ces coutures. Et donc je me suis dit pourquoi pas partager donc tous les secrets que j'ai acquis au temps de toutes ces années d'études, de stages et d'initiation, donc avec les auditeurs de Witches Radio. Parce que dans cette période de guerre, je suis content de pouvoir vous parler d'amour avec vous, donc sur toutes ces coutumes. Et sachez en tout cas que la magie d'amour n'a plus aucun secret pour moi. Et donc aujourd'hui, on va attendre le sujet, donc sans aucune censure, je vous rappelle, ni de voile tabou. Alors, donc, pour m'écrire, pour me poser des questions par rapport au thème de ce soir, donc la magie d'amour et le retour d'affection, hein, ou quand je dis poser des questions, ça peut aussi me partager donc des anecdotes que vous avez vécues, ou bien aussi des rituels que vous avez tenté de pratiquer, qui ont peut-être fonctionné à merveille, comme témoignage, ou pas du tout, hein. Et donc, voilà, si vous voulez m'écrire, donc il y a plusieurs adresses mail pour m'écrire. Il y a d'abord mandala@witchesradio.fr, donc mandala@witchesradio.fr. Et puis si vous voulez m'écrire sur mon adresse perso, donc en dehors du live, hein, quand vous êtes en live, vous pouvez m'écrire sur mandala, donc quand on est en live sur Witches Radio, mandala@witchesradio.fr. Et en dehors de live, donc si vous m'écoutez après en podcast ou peu importe, eh bien là c'est mandala@wikiradio.net, donc mandala@wikiradio.net. Ou alors vous êtes sur le formulaire de contact du site internet wikiradio.net. Il y a un formulaire de contact. On sait me contacter de cette manière-là aussi. Mais quand je suis en live sur Witches Radio, il y a également donc l'adresse mail mandala@witchesradio qui est bien sûr active aussi. Tous les chemins mènent donc sur ma boîte mail. Donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou ou quoi que ce soit. En tout cas, aujourd'hui donc on est parti pour 2 heures d'émission Godmantica, 2 heures de magie d'amour, et l'émission Godmantica en elle-même déjà une émission basée sur la magie d'amour, parce que je suis là tous les soirs par amour donc de faire de la radio, par amour de vous retrouver et pour le bien-être aussi, de voir vous partager plein de choses avec vous. Alors parfois j'ai un petit peu la voix enrouée, mais c'est normal, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, hein, j'ai travaillé, j'ai dû aller à des réunions, j'ai pas arrêté de parler à haute voix, d'expliquer des choses toute la journée. Donc en fin de soirée, je sollicite encore ma voix, voilà, et donc c'est un instrument qui a beaucoup fonctionné aujourd'hui et qui va encore fonctionner pour vous jusqu'aux alentours de 23h, mes amis.
Sorciers et sorcières, bienvenue dans Godmantica. Mandala Chakra, une voix à la radio.
Bienvenue dans l'univers de Mandala.
Et donc, pour aller plus en détail, donc de ce qu'avait dit en début d'émission, un petit peu de manière assez résumée, il faut savoir ce qu'on appelle donc la séduction ou la drague sont déjà donc des éléments très proches d'un envoûtement d'amour. Et la sorcière doit savoir qu'il existe donc 2 domaines où l'on peut utiliser donc la magie d'amour. Le premier domaine, c'est d'abord le retour d'affection. Le retour d'affection, qui, je vous rappelle, consiste donc à réparer un amour qui est cassé et donc à faire revenir vers soi par des moyens magiques, bien sûr, la personne pour laquelle on a encore des sentiments. Et le second, donc, c'est la provocation sentimentale, c'est-à-dire qu'on utilise dans ce cas-là la magie d'amour dans le seul but de rencontrer et d'attirer son âme sœur vers soi. Peu importe donc le choix du but des rituels d'amour, la sorcière confirmée sait également qu'il existe donc dans ce domaine 2 types de rituels pouvant être utilisés en magie d'amour. Il y a la provocation sentimentale, donc c'est-à-dire les rituels faisant partie donc de la simple magie dite rose. Et puis dans cette provocation sentimentale, il y a aussi au niveau du retour d'affection les rituels qui proviennent donc de la puissante magie d'Aphrodite. Alors il y a une grosse différence entre les deux, et vous posez la question, donc est-ce que c'est bien d'abord de vouloir faire revenir à soi par la magie d'amour une personne qui nous a quittés? Je pense que donc chacun doit y réfléchir selon son âme et conscience, mais n'oubliez pas que utiliser donc des moyens de séduction classiques comme mettre sur soi donc des beaux vêtements, un parfum sensuel pour plaire, c'est déjà en quelque sorte donc un envoûtement d'amour en soi, et un rituel de magie de retour d'affection ne fera justement que réparer ce qui a été cassé dans votre vie sentimentale. Et donc je dirais que si par la suite les deux personnes sont heureuses, alors pourquoi pas, hein, car la sagesse vous dira qu'il vaut toujours donc mieux vous faire l'amour que la guerre. En tout cas, voilà, dans tous ces rituels on retiendra donc il y a la provocation sentimentale, il y a le retour d'affection, et puis il y a tout ce qui tourne autour donc de cette magie d'amour qu'on appelle souvent donc la magie rose ou la magie d'amour. Alors moi je préfère la magie rose, parce que dans la magie d'amour, on sait de quoi il s'agit aussi, mais on va parfois employer aussi le terme magie rouge. Alors, la magie rouge, je mettrais plutôt ce terme entre guillemets, parce que certains vont l'employer pour désigner la magie d'amour, à cause de la couleur rouge, hein, et puis d'autres vont la désigner pour une magie plus satanique, parce que la magie satanique, on l'appelle également la magie rouge. Et donc, pour éviter une confusion entre la magie satanique et la magie d'amour, moi, je préfère mettre magie rose, hein, c'est plus explicite, ou alors, tout simplement, donc, le terme magie d'amour.
Mandala Chakra. A voice in the night.
Il y avait longtemps que j'avais plus passé donc le groupe Mater Dea dans l'émission de Godmantica. Ça fait plaisir de retrouver ces musiques bien rock, du rock païen comme je les adore. Et en plus c'est un groupe espagnol très sympa. Hein, j'ai eu l'occasion de pouvoir papoter un petit peu avec eux, et ils sont voilà très accessibles, très sympas et vraiment très passionnés par ce qu'ils font. Alors on va en revenir à nos moutons donc et continuer à vous parler de la magie d'amour. Et j'ai envie de vous expliquer en tout cas de vous montrer les différents différents types de magie qu'on peut rencontrer dans le domaine du retour d'affection et la provocation sentimentale. Parce que il existe des milliers de livres qui sont sortis sur le sujet. On vous allez sur Amazon ou ailleurs, dans n'importe quelle boutique ésotérique, vous demandez un livre sur la magie d'amour, le retour d'affection. Il y a des tonnes, il y a des bons, des moins bons, des très mauvais. Et c'est pas toujours évident donc de démêler donc les bonnes choses, des mauvaises à travers tout ça. Et puis quand on n'y comprend rien, quand on est un petit peu novice sur les bords, on peut très vite s'en mêler les pinceaux et repartir chez soi avec un livre qui vous servira pas à grand chose ou avec des rituels beaucoup trop compliqués à pratiquer. Alors ne vous en faites pas, parce que fin de l'émission, j'ai quand même vous donner quelques références de livres pour compléter le sujet de le thème de l'émission, le sujet donc même. Et donc voilà, là ce sont des livres de qualité bien sûr, mais je sais que beaucoup d'entre vous ont tous quelque part au fond de leur bibliothèque un grimoire ou un livre traitant de la magie d'amour, ce qui est normal d'ailleurs en tant que sorcier et sorcière. Et bien voilà, vous vous demandez peut-être, tiens, est-ce que le mien est valable ou pas, ou peut-être que vous l'avez lu, vous êtes peut-être déçu ou peut-être pas, donc on verra. Donc en tout cas, j'ai envie de vous éclairer un petit peu mieux cette fameuse différence de que dans les différents types de magie d'amour. Et pour commencer, donc on va voir la différence entre la simple magie dite rose ou rouge et la puissante magie d'amour dite d'Aphrodite. Donc on retient que quand je parle de la rouge, on parle bien sûr de la même chose, parce que ces deux magies donc font partie de la magie blanche. Et donc afin de bien comprendre tout ça, la différence donc il existe, il y a deux catégories de magie, de rituels, et pour éviter la confusion, donc je vais les résumer en quelques mots. La magie d'amour dite rose ou rouge fait partie donc de ce qu'on appelle la magie blanche traditionnelle. Elle utilise donc en général des rituels assez simples à pratiquer, c'est-à-dire qu'il faudra donc que des ingrédients très faciles à trouver, comme par exemple des bougies roses, de l'encens de rose ou de musc, du papier parchemin, du fil rouge, des incantations, des prières, etc. C'est une catégorie donc de rituels que l'on trouve à profusion sur Internet et dans les livres. Mais attention, car plus un rituel vous paraîtra simple à pratiquer, moins il mettra en œuvre bien sûr vos énergies magiques d'amour et même vos dons corporels. Et donc plus le rituel paraît simple, on va résumer, donc plus moins il aura d'efficacité. Parce que souvent, je reçois beaucoup de questions d'auditeurs. Tiens, Mandala, tu n'auras pas un rituel simple à pratiquer pour ci, pour ça. Alors, quand j'en vois déjà le mot simple à pratiquer, je me dis, mais c'est déjà foutu d'avance, parce que ce qui est simple fonctionne en général jamais. Parce que quand c'est trop simple, je pourrais être vraiment très terre à terre dans mes explications, mais quand c'est trop simple, vous allez mettre très peu d'énergie dedans, très peu d'invocation, très peu, vous avez employé très peu d'énergie magique, ou peut-être même pas du tout. Et donc, les résultats sont très, très light aussi. Tandis que si vous faites un rituel peut-être plus compliqué, qui demande plus d'implication de soi, parce que plus un rituel demandera de l'implication de soi, plus on aura justement des fruits en échange. Quand j'ai des fruits de réussite, on est bien d'accord. Et donc, pour l'amour, ne lésinez pas sur les moyens. Évitez, je vais même passer, sauter les rituels trop simples. Une petite prière ou allumer une bougie à une telle heure, tout ça. Non, ça fonctionnera pas. Vous allez perdre votre temps et dépenser votre argent dans une bougie pour pas grand-chose. Un rituel d'amour, c'est quelque chose où on s'implique soi-même, où on se lance dans des opérations dites de magie. On va les magnétiser, ces opérations. Ils mettent de l'énergie corporelle. Ils mettent de la volonté. Et d'ailleurs, comme cadeau aujourd'hui dans l'émission Godmantica, je vais vous partager au cours de vers la fin de l'émission, en tout cas au cours de l'émission plus vers la fin, quelques rituels donc de la magie rose qui seront donc partagés dans l'émission 3 ou 4. Je vais voir le temps qui me restera pour les partager. Comme ça, vous allez voir à quoi consistent donc des rituels quand même plus ou moins efficaces. Je dis plus ou moins parce que la magie rose ou la magie rouge, comme on dit, la magie traditionnelle, sera toujours moins efficace, bien sûr, que la puissante magie d'amour d'Aphrodite. En tout cas, donc des rituels de magie rose, j'en partagerai donc dans l'émission. Alors, la seconde magie en magie d'amour, c'est celle qui m'a été enseignée d'ailleurs par mon amie qui était prêtresse et qui était jour prêtresse, donc d'un coven dédié à la déesse Aphrodite et qui justement un coven spécialisé dans le domaine de la magie d'amour. Eh bien, la deuxième type de magie, c'est la magie donc d'amour d'Aphrodite, qui est considérée donc comme une des magies d'amour les plus puissantes. Et donc la magie d'amour d'Aphrodite, elle prend ses origines donc dans le célèbre grimoire de Cléopâtre. Alors, vous allez me dire, tiens Mandala, comment ça se fait que ça vient du grimoire de Cléopâtre, c'est enseigné donc dans les coven du côté de la Grèce. Vous allez voir qu'il y a une raison à tout ça, je vais l'expliquer tout à l'heure, parce que maintenant je vais surtout vous expliquer qu'est-ce que c'est donc la plus puissante magie d'amour d'Aphrodite, et donc on retiendra que ses origines viennent du grimoire de Cléopâtre. Et cette magie d'amour donc est considérée comme une des magies d'amour d'amour les plus puissantes au monde, hein, vu qu'elle a un taux de réussite pratiquement de 100%. Et en effet, en magie d'amour, on trouve une multitude de rituels pour faire revenir l'être aimé, ou même pour rendre une personne amoureuse. Mais bien souvent, donc, ces rituels sont beaucoup plus folkloriques qu'efficaces. Et donc, il faut savoir que la célèbre magie d'amour dite d'Aphrodite est considérée donc comme la plus puissante et la plus efficace des magies d'amour, car les rituels provenant de cette magie fonctionnent bien sûr sur les principes de la puissante magie sexuelle. Mais bien entendu, il faut aussi avoir un esprit assez ouvert et pour pouvoir pratiquer ce type de magie. Et donc, j'en parle dans l'émission, bien sûr, surtout à titre de documentation. On retrouve régulièrement, d'ailleurs, deux types de rituels assez connus, hein, provenant de la magie d'amour dite d'Aphrodite, c'est-à-dire celui du bain magique d'Aphrodite, ainsi que le grand rituel secret d'amour d'Aphrodite. Tous deux, donc ces deux rituels, sont souvent donc décrits dans la plupart des grimoires sérieux traitant donc de cette puissante magie d'amour d'Aphrodite. Et les deux types de magie décrites dans cette émission donc sont bien sûr entendus sans aucun danger. Alors quand je parle des deux types de magie décrites dans l'émission, je fais bien sûr allusion à la magie rose et à la magie d'Aphrodite. Et donc ce sont des magies qui sont absolument sans danger pour celui qui décide donc de suivre cette pratique ou de se lancer là-dedans, parce que ce sont des rituels d'amour qui appartiennent quand même dans le domaine de la haute magie blanche. Alors, je dirais que la magie rose fait partie de la magie blanche traditionnelle et la magie d'Aphrodite fait partie bien sûr de la haute magie blanche. Donc voilà, mais par contre, je vous donnerai donc en fin d'émission quelques rituels de magie rose, hein, mais pas de magie d'Aphrodite, parce que la magie d'Aphrodite, je vous rappelle, donc fonctionne sur les principes de la magie sexuelle et j'ai pas envie donc que l'émission soit censurée en disant, oh là, hein, parce que maintenant on censure vite pour pas grand chose. Hein, donc voilà, je sais bien que une fois qu'on diffuse en podcast, en radio, il n'y a pas de problème. En radio, je sais qu'avec Ali, on peut tout dire aussi, mais quand ça sort en podcast, là ça va dans des annulaires, tout ça, donc je vais aller marcher sur des œufs quand je parle de la magie d'amour d'Aphrodite. Mais si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur la magie d'amour d'Aphrodite, donc n'hésitez pas à me contacter à mandala@wikiradio.net, donc mandala@wikiradio.net, ou si vous voulez que je vous explique le principe de fonctionnement de ces rituels ou que je vous en partage quelques-uns, ce sera bien sûr avec plaisir que je pourrai vous partager des rituels d'amour d'Aphrodite, mais à une condition que je vois que c'est pour une bonne raison. Si vous me dites, Mandala, t'aurais pas quelques rituels à me refiler pour compléter mon grimoire, là? Non. Faut pas espérer, ça, je le ferai pas. Mais si vous avez vraiment une histoire d'amour, qui a des difficultés, que vous avez besoin d'un coup de main, d'un conseil, quoi que ce soit, là, dans ce cas-là, je veux bien vous envoyer par mail, donc, quelques fiches techniques, donc, de rituels d'amour provenant de la puissante magie d'Aphrodite, en vous rappelant qu'attention, c'est une magie qui fonctionne sur les principes de la puissante magie sexuelle. C'est pour ça qu'elle est puissante, d'ailleurs, hein. Elle emploie des énergies plus puissantes que la magie rose. La magie rose va utiliser seulement l'énergie des chakras traditionnels, quoi, alors que la magie d'Aphrodite va employer donc ce qu'on appelle en magie la fontaine des chakras. Mais voilà, donc on en reparlera donc dans d'autres émissions peut-être encore aussi, et aussi donc hors antenne si vous avez des questions à me poser donc ce type de magie, parce que voilà, je peux pas donc partager ce type de rituel dans mes podcasts. Voilà, c'est à éviter. Donc ce sera peut-être mieux donc des rituels de Sam Nagiros, et puis comme ça ce sont des rituels aussi qui sont beaucoup plus accessibles à tout le monde.
Retrouvez tout l'univers de Godmantica en podcast sur wiccaradio.net.
Mandala Chakra, une voix à la radio.
Annonce Witches Radio. Tous les mercredis après-midi, de 14h à 16h sur witchesradio.fr, retrouvez le replay de toutes les émissions du vendredi soir en compagnie de Mandala Chakra et de sa team.
Bien, comme je vous ai parlé donc de la déesse Aphrodite, il est intéressant aussi de se pencher un petit peu plus sur cette déesse, hein, qui est cette déesse Aphrodite, la grande déesse de l'amour, parce que beaucoup de rituels vous demandent parfois de l'invoquer, hein, au cours de votre rituel, et donc invoquer une déesse, c'est toujours important aussi de savoir donc quels sont ses attributs et qui est-elle réellement. Et donc il faut savoir qu'Aphrodite est venue donc d'Orient, en Grèce, donc c'est une grande déesse de la fécondité, de l'amour chez les Babyloniens, chez les Phéniciens également. Et elle devient donc chez les Grecs une des 12 divinités olympiennes, hein, la déesse de l'amour et de la beauté. Hérodote rapporte d'ailleurs que son plus ancien sanctuaire est celui donc d'Aphrodite, et Urania, donc de Urania à Acalon, ou bien à Rome, elle est identifiée donc avec la déesse italique Vénus. Sa naissance fait l'objet donc de deux traditions distinctes dans l'Iliade. Donc elle est considérée comme la fille de Zeus et de Dionée, fille elle-même donc d'Océan, et alors que dans la Théogonie donc d'Hésiode, elle naît plutôt du sperme du sexe d'Uranos tranché et jeté donc dans la mer par son fils donc Cronos. Et puis plus tardivement, donc aux entours du 5e siècle après Jésus-Christ, dans son commentaire sur le Cratyle de Platon, eh bien Proclus évoqua aussi, d'après Orphée, donc la naissance mythique de deux Aphrodites, reliant donc cette naissance au mythe cosmique du ciel et de la terre. Et Ouranos donc crie alors Aphrodite du sperme de ses organes génitaux jeté donc dans la mer, et ainsi que dit Orphée, d'en haut de ses testicules tombé dans la mer, donc comme ceux flottait donc de tous côtés sur la mer, il eut donc une sorte de tourbillon de blanche écume, et puis dans des saisons donc cycliques, année donc enfanta la Vierge digne de la vénération. Et donc la seconde Aphrodite, elle est plutôt créée par Zeus, mais dans cet âge donc Dione née donc lui prête la main, et de celle-ci donc voici ce que dit encore le Tyrolingien donc à ce sujet, il prétend donc que le désir saisi plus violemment du père tout-puissant de la semence de l'écume jaillit donc ses organes et la mère recueille donc la semence du grand Zeus, et dans l'année donc accomplissant son cycle, alors que la belle saison des plantes nouvelles, il engendre donc Aphrodite née de l'écume, celle qui éveille donc le rire et l'amour. Vous voyez, il y a toute une tradition qu'on pourrait dire même métaphysique derrière la naissance d'Aphrodite, et le texte fait écho au passage donc du banquet bien sûr où Platon fait de l'une le symbole d'amour intellectuel le plus puissant, hein, l'Aphrodite ouranienne céleste, et de l'autre le symbole donc de l'amour sensuel, Aphrodite pandienne populaire. Donc vous voyez, ces deux Aphrodites, même si elles ont parfois quelques attributs différentes, elles ont comme ce point en commun donc d'être la grande déesse de l'amour et de la sexualité. Et donc il est inutile donc de rappeler qu'Aphrodite n'est autre que la déesse donc de l'amour et de la sexualité chez les Grecs anciens, l'équivalent donc de la célèbre Vénus chez les Romains. Bien évidemment, peu de personnes ignorent aussi son nom, et nous connaissons tous au moins quelques brides de l'histoire de l'Olympe, hein, surtout à travers l'Iliade et l'Odyssée, et la cité des dieux à laquelle donc elle est rattachée comme l'une des principales donc d'y été. Mais qu'en est-il donc des rituels qui portent le nom de cette déesse? N'y a-t-il pas donc ici justement une puissance et un secret qui permet donc d'exaucer les désirs des humains, notamment ceux des femmes, afin donc de posséder les hommes et de les rendre donc fous, amoureux d'elles? Et effectivement, donc il existe plusieurs catégories de rituels de magie rouge et de magie rose très efficaces, issus donc directement du pouvoir d'Aphrodite, mais ce n'est pas les grands rituels d'Aphrodite, parce que dans beaucoup de sites internet, ils vont dire oui, magie rose d'Aphrodite, magie d'amour d'Aphrodite, et puis quand on voit le rituel, c'est un simple rituel de magie rose sous laquelle ils ont collé l'étiquette d'Aphrodite pour peut-être attirer plus de visiteurs sur le site, ou peut-être parce qu'une petite invocation à la déesse Aphrodite, mais qui n'a rien à voir avec le grand rituel secret d'Aphrodite. Donc, pour savoir discerner déjà un véritable rituel d'amour provenant de la magie d'Aphrodite et un rituel d'amour provenant de la magie rose, même si s'intitule, je vais y arriver, hein, magie d'amour d'Aphrodite ou quoi que ce soit, parce qu'il y a une petite incantation d'Aphrodite, retenez la chose importante pour pas vous faire Bernet, c'est que dans la magie rose, l'énergie sexuelle n'est jamais utilisée. Donc la magie rose sert à des bougies rouges, tout ce que vous voulez, des bougies roses, des encens, des parfums, des parchemins, une goutte du sang. On reste dans la magie rose, hein, qui fait partie aussi de la catégorie de la magie blanche. Si par contre, dans votre rituel de magie, à un moment donné où l'énergie sexuelle serait utilisée, eh bien là, vous pouvez être sûr, certain, vous êtes dans un rituel donc de la magie d'Aphrodite. Voilà donc un moyen de différencier les deux magies, sans vous faire donc tromper par des titres alléchants ou par des rituels bien présentés. C'est très simple, il suffit de regarder le niveau pratique comme une recette de cuisine aussi, hein, si on peut vous promettre n'importe quoi. Si je vous dis ça, c'est une recette de spaghetti à la bolognaise, ça c'est une recette de, je sais pas moi, steak frites, salade, eh ben voilà, quand on voit les deux, on voit directement qu'il y a une différence entre les deux. Ben c'est la même chose, donc ne vous fiez pas toujours au nom et quoi que ce soit, regardez plutôt comment fonctionne le rituel. Et donc c'est important parce que quand vous allez donc utiliser donc la magie d'Aphrodite, c'est toujours une sorte de gage de haute puissance magique, parce que c'est une magie qui fonctionne pratiquement dans tous les cas. Et mais c'est un problème, retenez aussi que la magie d'Aphrodite ne s'adresse pas à n'importe qui, hein, donc en tant que sorcier sorcière, moi je vous conseille plutôt donc d'aller plus souvent donc vers des magies d'amour traditionnelles, celles qui sont utilisées donc par les sorciers, les mages, les druides ou bien les chamans de notre époque, hein, qui sont beaucoup plus soft et beaucoup plus plus facile à réaliser aussi. Mais si vous vous lancez dans la pratique de la magie d'Aphrodite, je vous dis ça parce que certains marabouts vous proposeront peut-être ça, certains voyants aussi ou d'autres sorciers ou sorcières. Il faut savoir que d'abord faire la référence à une divinité est déjà peut-être un gage de puissance en magie, mais n'oubliez pas aussi que ça ne s'adresse pas à n'importe qui parce que cette divinité en offrante va vous demander donc de lui donner de l'énergie sexuelle. Alors si vous avez un esprit ouvert de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Hein, alors je dis, vous pouvez y foncer dedans. Mais si vous êtes quelqu'un de plus prude, eh bien allez plutôt vers la magie dite rose. Mais utiliser donc un tel sort si puissant, là je reviens à la magie d'Aphrodite, donc si vous utilisez un tel sort si puissant, ou si vous demandez que l'on entreprenne donc des travaux de magie via des plus grands rituels secrets d'Aphrodite pour vous, donc hein, ça peut arriver aussi qu'on demande à quelqu'un de faire des rituels pour vous, eh bien c'est ici une toute autre affaire, parce qu'il faut laisser aux magiciens et aux sorciers, aux sorcières, ce qui appartient aux sorciers et aux sorcières. On dit toujours, il faut laisser à César ce qui appartient à César. Moi je dis aussi, quand ce sont des magies plus compliquées, qui demandent peut-être plus d'implication de soi, il faut les laisser donc à des spécialistes, comme les magiciens, les sorciers, les sorcières qui seront donc assez spécialisés, initiés pour ce genre de pratiques magiques et qui peuvent donc vous conseiller ou même peut-être vous accompagner dans ce genre de pratiques de rituels, car l'improvisation de tels rituels n'est absolument pas recommandée. En effet, donc on ne dérange pas une déesse sans une bonne raison, même si le temps ne compte pas hein, à ce niveau supérieur. C'est plutôt au niveau de l'énergie donc il s'agit donc pour opérer ce rituel puissant. Et donc si vous dérangez l'énergie d'une déesse, je veux dire plutôt par votre rituel, si vous titillez l'énergie d'une déesse par votre rituel, il faut que ce soit pour une bonne cause pour commencer et que ce soit fait dans les règles. Hein. Il y a un protocole à respecter et tout ça sont des choses à savoir donc avant de se lancer dans ce type de magie. Personnellement, donc, je considère plutôt les rituels d'Aphrodite comme étant les plus hauts en termes de puissance magique sexuelle, mais demandant aussi le plus d'implication de soi et aussi d'être très ouvert au niveau de la magie et peut-être déjà même initié donc dans ce domaine-là. Mais si vous êtes débutant, allez plutôt donc vers la magie dite rose ou rouge, donc la simple magie d'amour traditionnelle. Bien que la magie d'Aphrodite, donc cette puissante magie sexuelle, soit la base souvent de toutes les grandes magies qu'on pourrait qualifier de la haute magie blanche, hein, on retrouve souvent les mêmes bases, les mêmes manières de fonctionner, voilà. Mais dans ce qu'on on va nommer donc retour d'affection ou retour d'un amour perdu, hein, eh bien les rituels sont peut-être plus ou moins similaires. À la différence cruciale quand même que entre les rituels sont inspectés et approuvés donc par le haut niveau de la déesse de l'amour, c'est-à-dire Aphrodite. Donc vous voyez, quand vous pratiquez de la magie rose, c'est l'énergie de vos chakras qui vont vous faire que le rituel va se mettre en fonction et fonctionner. Je sais que c'est très complexe à comprendre, c'est aussi complexe pour moi à expliquer, parce que j'essaie de trouver les bons mots sans vous faire peur, vous choquer ou quoi que ce soit. Mais dites-vous bien que dans un rituel de magie rose traditionnelle, là c'est l'énergie des chakras que vous employez, vos propres pouvoirs et en même temps l'énergie du rituel. Dans la magie d'Aphrodite, c'est plus complexe parce que voilà, non seulement vous allez faire appel à une entité, une déesse, hein, la déesse Aphrodite, déesse de l'amour et de la sexualité. Et donc ces entités, c'est eux qui vont approuver la réussite de votre rituel. Et donc, à partir du moment que vous invoquez une entité, il faut lui faire une offrande, il faut faire un protocole, vous voyez, il y a tout un processus à suivre, et donc ne vous lancez pas là-dedans à l'improviste ou de manière expérimentale. Il y a moins de risques donc de se lancer de manière expérimentale dans de la magie rose que dans de la magie d'Aphrodite. Alors j'en reviens donc, j'allais dire, à nos amours, hein, ouais, façon de parler, quoi. Il arrive d'ailleurs parfois aussi que la réponse des entités associées, donc on va dire dans ce cas-là de la déesse, hein, à ce genre de rituel, soit négative. Quand la poursuite des travaux de ce rituel, parce que si la déesse estime que cet amour n'est pas bon pour votre karma, par exemple, et pour le karma de votre partenaire, eh bien elle peut très bien mettre le houla en disant ce rituel n'ira pas plus loin que là, et donc il se passera rien. Et donc voilà, ça peut arriver aussi, donc ne vous en faites pas. Même si on dit que c'est un rituel qui a 100% de réussite, il a 100% de réussite, cette magie-là, quand le karma estime que vous avez tort. Parce que il y a toujours une loi immuable dans la magie, fais ce que tu veux, du moment que tu te fais tort à personne. Eh bien, ça s'applique également dans la magie d'amour, on fait ce qu'on veut, du moment qu'on fait tort à personne. Alors, influencer quelqu'un en amour, c'est pas faire du tort, c'est réparer quelque chose qui est cassé. Donc pour l'univers, c'est peut-être la morale de certains humains qui vont dire ça c'est bien, c'est pas bien. Pour l'univers, ça ne rentre pas dans sa morale. La morale, pour un être humain, c'est faire souffrir quelqu'un. Donc, c'est-à-dire si maintenant vous réparez un couple et qu'après ils vivent heureux pour le reste de leur vie en faisant des papouilles, de l'amour et tout ça, Pour l'univers, c'est parfait. Tant qu'on fait, on reste dans ce domaine, fait de l'amour et pas la guerre, c'est parfait. Mais si maintenant, vous avez été quelqu'un, je veux dire, d'agressif, de violent, ou de pas très, très gentil, et vous voulez récupérer votre copine, plutôt par l'ego que par le cœur. Vous voyez la différence? C'est ça, la petite nuance. On peut récupérer un amour par le cœur, parce qu'on l'aime encore. C'est légitime. On peut aussi récupérer un amour par l'ego, pour dire c'est ma chose, c'est ma voiture, c'est ma maison, c'est ma copine, et voilà. Et ça, l'univers n'acceptera pas, niveau karmique, n'acceptera pas, parce que là, il y aura de la souffrance, hein, et vous avez fait souffrir cette personne, et l'univers n'aura pas envie que cette personne continue à souffrir. Je parle des hommes et des femmes, hein, donc je fais pas de discrimination à ce niveau-là, on est bien d'accord. Et donc, quand on répond, quand on invoque une entité, comme Aphrodite, donc pour lui demander de vous aider dans un rituel, hein, la réponse peut parfois négative, hein, quand la poursuite du rituel, donc ceci pour des raisons purement karmiques et qui nous dépassent. Et dans ce cas-là, il ne faut surtout pas insister à aller plus loin, parce que les dieux, les déesses savent dire dans notre karma, nous pas, et donc ils savent ce qui est bon, ce qui est mauvais pour nous aussi. Donc c'est les seuls cas où un rituel ne fonctionnera pas, mais dans ce cas-là, aucun rituel d'amour ne fonctionnera, je vous dis d'avance. Si au niveau du karma, il y a blocage, parce que ça va faire plus de tort que de bien, le rituel d'amour ne fonctionnera pas. Donc d'un côté, c'est une sorte d'assurance, parce que si vous invoquez l'univers ou une déesse pour pratiquer un rituel d'amour et que celui-ci fonctionne, c'est que vous êtes déjà sûr de ne pas faire de mal à la personne pour qui vous avez pratiqué ce rituel, parce que l'univers l'a approuvé. Par contre, si vous faites un rituel d'amour, même le plus puissant au monde, et qui ne fonctionne pas, ben c'est que l'univers ou la déesse a mis le haut là, donc a mis un blocage. Pourquoi? Parce que il va y avoir des souffrances des deux côtés, ou d'un des deux côtés, peu importe, et le karma, votre karma peut se salir, peut s'engraisser, et donc encore plus perturber donc votre évolution de vie. Donc voilà, vous pouvez avoir la conscience tranquille en pratiquant des rituels d'amour, parce que s'il fonctionne, c'est que c'est approuvé par l'univers ou par la déesse que vous avez invoqué. S'il fonctionne pas, c'est qu'il n'a pas été approuvé pour des raisons karmiques. Voilà, ça résume tout, et ça vous permet aussi au niveau d'ontologie de passer ces problèmes de moraliste, quoi que ce soit, parce que voilà, je dis toujours que faire la morale c'est bien, mais il faut comprendre la vie des gens, et sans plus. Et je vais donner un autre exemple qui est flagrant aussi. Quand vous avez un bras ou une jambe qui est cassée, ah bah qu'est-ce que vous faites? Vous allez au médecin, ouais, il vous met un plâtre, il vous la répare. Bah ouais, ce qui est cassé, ça se répare. L'amour fonctionne de la même manière. Un amour qui est cassé, ça se répare. Et d'ailleurs, quand deux pays sont en guerre, ben on essaie de recréer de casser la haine, pour d'abord pour commencer, et de remplacer la haine par de l'amour. Eh bien, dans un couple, c'est le même principe. L'amour universel, c'est ce que l'univers désire chez les humains, peu importe les moyens pour y arriver. Et dites-vous bien que si votre karma le permet, le rituel fonctionnera avec l'approbation de l'univers et de la déesse que vous avez invoquée. Si votre karma ne le permet pas, ou un des deux, ou tous les deux, ça ne fonctionnera pas. Donc, dans les deux cas, vous pouvez avoir la conscience tranquille, donc il n'y a pas de risque que de faire souffrir quelqu'un, hein, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Et pour en savoir plus sur le sujet, donc vous pouvez bien sûr me contacter par mail, hein, si vous désirez, donc que je vous envoie les fameuses fiches techniques des deux grands rituels d'amour d'Aphrodite, hein, que j'ai cité dans l'émission, donc des amours très puissants de la magie d'Aphrodite, c'est-à-dire le rituel d'amour du bain magique d'Aphrodite, qu'on peut parfois trouver sur Internet. Celui-là, j'ai déjà vu. Le rituel d'amour du bain magique d'Aphrodite, j'ai déjà vu. Mais attention, j'ai déjà vu des véritables rituels d'amour d'Aphrodite et des faux. Il y a le vrai bain magique d'amour d'Aphrodite et il y a le faux qui circule. Donc, à vous de décerner le bon du mauvais. Si vous m'écrivez, moi je vous envoie le bon, il n'y a pas de problème. Et alors, il y a le grand rituel d'amour secret d'Aphrodite. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez donc des questions sur un de ces deux puissants rituels d'amour, c'est mandala@wikaradio.net. Donc, mandala@wikaradio.net. Allez, une petite pause musicale maintenant. Toujours en compagnie donc de Michel Pépé. Je suis content d'ailleurs de vous passer un petit peu du Michel Pépé ce soir, parce que voilà, on est zen, on est bien, on est entre nous, on est dans Codemandica, même si j'ai un petit peu speed, hein, mais c'est normal, hein, j'ai bu quelques tasses de café pour me doper avant d'être ce soir dans Codemandica. Donc quand je suis speed, j'ai bu trop de café. Quand je suis plus calme, c'est que j'ai pas bu assez de café. Voilà, je vous cache rien, hein, j'ai jamais rien caché, et je vous l'avoue, je me dope au café.
Tous les vendredis soirs, 21h-23h, c'est Mandala Chakra sur Witches Radio.
Le replay, ça s'est passé sur Witches Radio.
Witches Radio.
Eh bien, on va regarder un petit peu ensemble maintenant l'histoire qui tourne autour de cette fameuse magie d'amour d'Aphrodite. Faut savoir que c'est vrai qu'on parle souvent de la magie d'amour d'Aphrodite et on pourrait se poser la question, ouais, mais où est l'origine de cette magie d'amour? On en parle beaucoup, mais ça prend sa source où ça? Est-ce que c'est la déesse Aphrodite qui a mis en évidence cette magie d'amour? C'est beaucoup plus profond que ça, moi je vous dirais. Au départ, donc les premiers grimoires qu'on a retrouvés traitant donc de la magie d'amour d'Aphrodite, c'est dans le fameux grimoire de Cléopâtre, un grimoire qui est souvent cité d'ailleurs dans beaucoup de livres et c'est beaucoup de sites internet aussi. C'est le grimoire de Cléopâtre. Alors l'histoire du grimoire de Cléopâtre est quand même fantastique parce que il faut savoir donc que Cléopâtre était une sorte de grande gouverneuse, une reine. Donc il y a eu les pharaons, l'Égypte antique et tout ça. Puis il y a eu une femme à un moment donné qui a gouverné l'Égypte. Alors vous savez qu'il y a toujours une petite différence entre les hommes et les femmes parce que les hommes ont toujours cette étiquette qui sont vaillants, guerriers, voilà, combattants, ils savent pas faire. Et là, quand ils ont vu quand j'ai vu les autres pays ont vu qu'en Égypte antique c'est une femme qui gouvernait ça, qui était splendide d'ailleurs, très jolie. J'ai plutôt envoûtante. Quand on décrit Cléopâtre, ils n'emploient jamais le terme jolie, mais le terme ça une beauté envoûtante. Ça peut tout dire à la fois. Et donc les pays rivaux, ils vont se dire, une femme au pouvoir, c'est facile à combattre. On va envahir son pays, on va faire la guerre, et voilà, on va s'approprier l'Égypte. C'était un petit peu l'époque. Vous savez, il y avait les Romains, tout le monde s'envahissait les uns les autres, tout ça à l'époque. C'était pour cela qu'on jouait aussi à ceux qui avaient le plus de territoire. Ça connaît des problèmes d'ego. C'est malheureux à dire, mais l'histoire de l'humanité, ça n'est que des guerres. Et bien déjà à l'époque aussi. Mais Cléopâtre avait d'abord déjà un avantage en sa faveur, c'est qu'elle avait une beauté envoûtante. Et donc ces guerres ne venaient pas parce que d'abord elle était respectée rien que pour sa beauté et puis elle avait aussi beaucoup de pouvoir dans sa manière de parler, de présenter les choses. On appelle ça à l'époque de la sagesse. Elle avait beaucoup de sagesse et une grande beauté, ce qui lui valait quand même du respect. Et en plus, quand je parle de sagesse, c'était une reine qui était contre les guerres. Elle voulait absolument pas que son peuple verse du sang, donc pour se battre pour une guerre quelconque. Elle disait toujours qu'elle préférait se rendre que de combattre n'importe quel ennemi, parce que pour elle la vie humaine était quelque chose de sacré et plus sacré que le territoire. Et là je peux la comprendre. Et donc en même temps, elle avait des conseillers, la Cléopâtre, et les conseillers vont dire non, en tant que reine, elle a gardé l'intégralité de l'Égypte, elle a protégé l'Égypte, et donc protéger son peuple aussi. Et elle s'est posée la question, donc comment avoir suffisamment de pouvoir, de présence, pour protéger mon peuple, sans devoir rentrer en guerre, parce que c'est très bien comment ça se passait, on montre un petit peu de faiblesse, et on se fait mordre, on se fait envahir. Et donc elle est allée trouver un mage, donc en Égypte aussi, il y avait des sorciers, il y avait des mages, d'ailleurs, il y a une émission Code Mantica où je traite justement en détail de la magie égyptienne. Elle va trouver donc un mage et demande donc au mage qu'est-ce qu'elle pourrait faire, peut-être par des rituels de magie ou quoi que ce soit, pour éviter donc que d'autres pays dominés par des grands guerriers, des Césars, des combattants, l'envahissent son pays pour le dominer et voler toutes ses richesses et massacrer peut-être même son peuple aussi. Et là, son mage, donc qu'elle a trouvé, donc il lui a dit, écoutez, vous avez une beauté envoûtante, vous êtes merveilleuse. On va jouer là-dessus. Est-ce que vous allez tous ceux qui veulent vous envahir, tous ceux qui veulent vous dominer, tous les pays qui vont faire circuler des bruits de guerre vis-à-vis donc de l'Égypte, eh bien, on va retourner ça par un rituel de magie d'amour. On va envoûter donc ces grands généraux, ces grands chefs de guerre, ces grands dirigeants, pour qu'ils n'ont pas envie de faire la guerre. Parce que quand on aime quelqu'un, la moindre des choses, c'est qu'on n'a pas envie de lui faire du mal. On est bien d'accord. Et donc, elle a commencé à se faire initier donc par son mage à la magie d'amour, qui s'appelait pas à l'époque de magie d'amour d'Aphrodite. Ça s'appelait donc, on l'a nommé ça. Nous, les historiens vont la nommer magie d'amour de Cléopâtre. C'était seulement pas le nom de l'époque non plus. Ils avaient seulement peut-être un nom. Magie amoureuse ou peu importe, mais c'est devenu magie d'amour de Cléopâtre à cause des fragments de son livre qu'on a retrouvé, du fameux livre d'amour de Cléopâtre. Et donc il lui a appris toutes sortes de rituels, donc de magie d'Aphrodite, des puissants rituels, et elle a pratiqué. Donc tout ça, qu'il y avait un pays qui voulait l'envahir, elle pratiquait le rituel sur le grand dirigeant du pays. Et puis évidemment, qu'est-ce qui se passa? Il tomba envoûté, amoureux de la beauté de Cléopâtre. Il tombait amoureux de Cléopâtre. Et de là vient cette fameuse phrase aussi, la phrase que je cite souvent: faites l'amour et pas la guerre. Et bien justement, ils étaient tellement amoureux d'elle qu'ils avaient plus envie de lui faire l'amour que de combattre son peuple. Et donc elle a su garder la paix comme ça en Égypte antique en tant que reine. Donc une femme seule au pouvoir dans un monde d'hommes qui étaient en guerre pour tout et pour rien. par la magie d'amour. Donc tous ceux qui voulaient la combattre tombaient d'office amoureux d'elle, et alors qu'elle les invitait à des banquets et tout ça. Et donc jusque-là, tout allait bien. Mais évidemment, à force d'envoûter, donc par l'amour, hein, on est bien d'accord, hein, tous ces grands généraux, ces grands chefs de guerre, quoi que ce soit, mais elle a créé entre eux une certaine rivalité. Parce qu'ils étaient tous amoureux de la même femme, de Cléopâtre, et donc ils ont commencé à se battre, à faire des guerres entre eux, pendant que l'Égypte était dans une période de paix. Hein, tout autour d'elle, ça se battait. Souvent, ils ont pris des autres prétextes. Hein, ils vont pas dire qu'ils se battaient parce qu'ils étaient amoureux de la même femme. Non, je me fais penser nouveau au combat de cerf pour avoir la femelle. Sauf qu'ici, les hommes avec des armes, et malheureusement, il y a des gens qui en meurent aussi. Mais voilà, donc il y avait leur haine de rivalité de conquérants. Ils l'ont mis sur d'autres pays, et donc Cléopâtre est passé entre le mag du fil après, et il a eu des problèmes avec son frère et d'autres trucs de jalousie. Et c'est vrai que je crois qu'elle a une trahison familiale, et son frère, c'est la seule qui n'a pas su envoûter par la magie d'amour, parce que c'était de son propre sang, son propre frère. Et vous savez qu'entre frère et sœur, la magie d'amour, ça ne fonctionne pas. Hein, on est bien d'accord, parce que c'est interdit par l'univers. Et donc voilà comment ça s'est passé. Donc, elle a tout relaté, ses rituels, la puissante magie d'amour d'Aphrodite, dans un grimoire qui a porté le nom de grimoire de Cléopâtre. Alors, le grimoire de Cléopâtre, on l'a jamais retrouvé en entier. On a retrouvé que des fragments de ce grimoire, hein, parce que ça remonte à loin. On a retrouvé donc des fragments, par Pérus, des fragments qu'on peut lire ou pas. Et l'appellation, donc, de ces fragments qu'on peut trouver donc dans des archives de bibliothèque royale, c'est conservé quelque part dans une bibliothèque, je sais plus de mémoire laquelle. Ça s'appelle la Chrysophée de Cléopâtre. Donc tous ces archives de ce grimoire de Cléopâtre, ils ont recensé sous le terme la Chrysophée de Cléopâtre. Il y a donc des rituels de retour d'affection, des rituels de spargérie, des rituels de beauté, il y a de tout. C'est vraiment un livre qui recense tout ce qu'on peut s'imaginer en magie d'amour. Et donc dans le grimoire de Cléopâtre, les fragments qu'on a retrouvés, ça s'appelle la Chrysophée de Cléopâtre. Or, j'ai toujours pas répondu à la question, comment est-ce que justement la puissante magie d'amour de Cléopâtre est devenue donc par après la puissante magie d'amour d'Aphrodite? Eh bien, il faut savoir aussi qu'à l'époque de l'Égypte antique et de la Grèce antique, il y avait un commerce qui se créait donc entre la Grèce antique et l'Égypte à l'époque. C'est d'ailleurs grâce à ça qu'on a retrouvé cette fameuse pierre de Rosette qui a permis donc de traduire les hiéroglyphes égyptiens, parce que la pierre de Rosette n'était rien d'autre qu'un traducteur d'hiéroglyphes égyptiens en grec ancien. Et donc, en sachant donc en grec ancien ce que voulait dire l'hiéroglyphe, eh bien, on a pu donc décrypter grâce à ça tous les hiéroglyphes égyptiens. Alors que avant c'était du charabia, on n'y comprenait rien. Et cette fameuse pierre de Rosette a donné la clé. Donc je reviens. Donc il y avait du commerce entre la Grèce et l'Égypte antique, et Pythagore également. Donc c'est Phénicie donc en Égypte antique, et beaucoup d'autres philosophes grecs aussi. Et donc le grimoire de Cléopâtre est arrivé donc en Grèce aussi. Il a été traduit en grec ancien. Et les Grecs anciens, au lieu de mettre peut-être par orgueil ou parce qu'ils avaient une déesse de l'amour, comme déjà aussi, ils avaient la déesse Aphrodite, déesse de l'amour et de la séduction. Et donc, tout le rituel d'amour qu'ils pratiquaient en Grèce était dédié à la déesse Aphrodite. Et donc, les divinités égyptiennes qui étaient reprises dans le grimoire de Cléopâtre, au moment de la traduction en grec ancien, ont été remplacées par des divinités grecques. Et donc, toutes les divinités de l'amour égyptienne, le nom a été supprimé, et ils ont mis à la place donc les invocations pour la déesse Aphrodite. Donc voilà la version grecque de ce grimoire qui est devenu donc la magie d'amour d'Aphrodite. Ce sont les fameuses formules tirées du grimoire de Cléopâtre qu'on n'a jamais retrouvé en entier, mais en fragments, alors que le grimoire d'Aphrodite, lui, il est complet. Mais ils ont remplacé donc les noms des déesses et de l'amour égyptienne par la déesse Aphrodite. Un peu comme le tarot aussi, elle veut le tarot égyptien, et donc les dieux et la déesse égyptienne était Isis et Osiris. Donc quand ça a été créé en tarot de Marseille, hein, donc en France, et donc les premiers tarots qu'on a vus par chez nous, les dieux et la déesse des Égyptiens étaient remplacés par le pape et la papesse. Mais une papesse, on n'en voit nulle part ailleurs que dans le tarot, hein. Mais c'était parce qu'ils ne voulaient pas mettre Isis et Osiris, hein, donc parce que c'était quand même très très catho à l'époque, la France, de la création du tarot de Marseille. Donc on a mis le pape et la papesse, voilà. Et puis surtout qu'il faut pas oublier que c'était une époque aussi où le Vatican comptait s'installer à Avignon. Après, il y a des discussions, ils se sont installés donc au Vatican, donc en Italie. Mais au départ, le palais royal, c'était donc du côté de la France, à Avignon, donc que ça allait s'installer. Enfin, je vais pas refaire toute l'histoire de la papauté et tout ce qui va avec. C'est juste un petit exemple. Je vais faire attention parce que je me connais, je peux partir dans une direction et alors je m'éloigne de mon sujet. Hein, donc, je vais revenir me recentrer sur cette magie d'Aphrodite pour dire donc voilà comment est-ce qu'ils ont eu ce fameux grimoire de la magie d'amour d'Aphrodite version grecque, une traduction donc du grimoire de Cléopâtre en grec ancien, où les divinités, dont les diétés égyptiennes, hein, de l'amour, ont été remplacées par la déesse Aphrodite, avec les incantations pour Aphrodite qui vont avec, donc ça a été adapté. Et de là est né donc le célèbre grimoire de la magie d'Aphrodite, hein, qu'on dit parfois encore magie de Cléopâtre ou grimoire de Cléopâtre, mais sauf que les incantations sont dédiées à déesse Aphrodite. Et donc voilà, autant dire Aphrodite, parce que sinon ça ferait un petit peu bizarre de parler de Cléopâtre et d'Aphrodite, alors que ce sont deux cultures très différentes. Mais donc maintenant vous connaissez l'histoire, il n'y a plus de secret. Alors le grimoire de Cléopâtre, la magie d'Aphrodite, on les trouve, mais sous forme de fiches, parce que le livre jamais édité de manière complète non plus, quand on retient qu'on a souvent que les rituels, donc les rituels circulent un petit peu partout, surtout donc chez les grands initiés en magie d'amour, alors que le grimoire de Cléopâtre, j'en ai vu quelques fragments sur internet aussi, mais donc sous le nom de la chrysophée de Cléopâtre, et c'est souvent des dessins où les mêmes fragments encore remontent, hein, souvent ce sont les mêmes. Voilà, parce que quelqu'un a eu un jour scanné une page ou deux, et donc on retrouve souvent les mêmes, mais maintenant vous connaissez comme la petite histoire donc du grimoire d'Aphrodite, donc de la magie d'amour d'Aphrodite, de cette puissante magie d'amour. Et n'oubliez pas, je vais encore résumer, même si je me répète, c'est important qu'elle soit claire dans votre tête, la magie rose c'est partie de la magie blanche, elle utilise donc des ingrédients normaux. Il y a aucune énergie sexuelle dans la magie rose. Donc, si vous tombez sur un rituel qui dit la magie d'Aphrodite, s'il n'y a pas l'énergie sexuelle qui est invoquée, vous êtes dans la magie rose. Même si ça invoque la déesse Aphrodite, vous êtes dans la magie rose. Si c'est un rituel qui invoque l'énergie sexuelle, avec en plus la déesse Aphrodite et tout ce qui va avec, vous êtes dans la puissante magie d'Aphrodite. Là, vous pouvez discerner les deux et ne pas vous faire berner aussi. On ne sait jamais, hein, voilà, qu'on vous vend des vessies pour des lanternes ou quoi que ce soit. C'était une astuce très simple pour reconnaître le vrai du faux. Voilà. On se retrouve d'ici quelques instants. Un petit peu de musique aussi, j'ai encore beaucoup de choses à vous faire découvrir niveau musique également. En tout cas, je vous rappelle qu'on est dans Côte Mantica, déjà 22h passées de 9 minutes, et on est en train de parler des choses essentielles de la vie, de ce qui fait tourner le monde, c'est l'amour, tout simplement.
Annonce Witches Radio. Chaque vendredi soir de 21h à 23h, retrouvez Mandala Chakra et la team du vendredi soir.
Mandala Chakra, une voix à la radio.
Alors, je veux jeter un petit coup d'œil, hein, sur la boîte mail donc de l'émission Côte Mantica. Je vois que j'ai quelques messages qui sont arrivés. Il y a d'abord un message de Doudjaker qui a été envoyé en début d'émission, qui me dit « Bonsoir mon doux Mandala, c'est reparti pour un nouveau Côte Mantica ce soir, comme je les aime », nous dit-elle. « Une lueur de bougie et des effluves d'encens évanescentes, ambiance qui me scie pour t'écouter nous parler donc de magie d'amour. Je me laisse donc transporter par ta voix chaleureuse et envoûtante. Bis !» Ça, c'est bien gentil, Doudjaker, comme message. C'est vrai que je parlais toujours de la beauté envoûtante de la Cléopâtre, la reine Cléopâtre, et voilà qu'on parle de ma voix, c'est bizarre. Alors, il y a Patricia qui nous fait un petit coucou aussi, qui dit « Bonsoir Mandala, un petit bonsoir à ce beau vendredi avant Samhain, bisous Patricia ». C'est vrai qu'on approche petit à petit du sabbat de Samhain aussi, et donc on en avait parlé justement vendredi passé dans l'émission « Bienvenue en Arcadie », donc l'émission d'actualité des sorcières, qui sera bientôt donc rediffusée en podcast sur le site de Witches Radio. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur les préparatifs de Samhain, surveillez la rubrique podcast de Witches Radio, parce que les émissions Bienvenue en Arcadie sont tous diffusées sur Witches Radio, voilà, tandis que les émissions initiatiques sont diffusées sur Witches Radio également sur mon site Wicca Podcast, mais tout ce qui est émission d'actualité c'est uniquement donc Witches Radio. Alors j'ai Robert aussi, ça fait longtemps qu'il m'a pu écrire. Robert, bonjour Robert, Robert Tarot qui nous demande donc « Bonsoir Mandala, j'ai un sujet d'émission pour toi qui t'intéressera peut-être de développer donc et sur lequel j'aimerais avoir donc l'enseignement du sorcier », nous dit Robert. Alors j'ai pas lu le message en entier parce que c'est un petit peu hors sujet, mais donc il nous dit qu'il s'agit des égrégores. Donc il s'agit des égrégores, je sais comment ils prennent naissance, nous dit-il, ce qui les génère, mais je ne sais guère plus. Donc voilà, Robert qui demande donc de faire une émission Côte Mantica sur les égrégores. Alors Robert, figure-toi que c'était programmé, mais pour la nuit des magiciens. Donc dans nos listes de sujets pour l'émission La nuit des magiciens, on avait noté aussi les égrégores, mais je vais également donc le noter pour Côte Mantica. Pourquoi pas? On pourrait très bien faire une émission de La nuit des magiciens sur les égrégores, où on réunit donc toute l'équipe des magiciens autour de la table ronde pour justement débattre donc d'un thème de magie. Et donc je vais rajouter les égrégores. Ça c'est déjà mis sur la liste, mais je vais le mettre dans la liste des Côte Mantica aussi, où là je vous ferai une émission personnelle sur des égrégores, un petit peu comme je fais dans la magie d'amour. On a une émission débat, non, une émission de la nuit des magiciens, sous la nuit de la magie d'amour et le retour d'affection les âmes sœurs. Et maintenant, donc, on complète la série avec une émission Godmantica pour affiner un petit peu tout ça. Donc, j'en prends note, Robert. Désolé, je vais pas lire tout le message parce que ça parle que des égrégores. Et donc, je restais un petit peu quand même dans le sujet de l'émission de ce soir, mais je vais prendre note après l'émission de ton idée. Hein, je vais rajouter donc également les égrégores dans Godmantica. Alors que sur la liste de la nuit des magiciens, on l'avait déjà mis. Donc, on aura. Ce sera un thème qui viendra souvent, je pense aussi, dans les prochaines émissions. Alors, on revient, nous, à nos moutons de la magie d'amour, et j'ai envie de vous parler un petit peu donc des ingrédients les plus souvent utilisés donc dans des rituels de magie d'amour traditionnels, et même d'Aphrodite. Hein. La magie d'amour a toujours le même type d'ingrédients, ça bourre des bougies de couleur rose. On peut employer des rouges aussi, mais je vais toujours avoir une préférence pour le rose, parce que les roses, c'est des couleurs vénitiennes, comme la couleur verte. La couleur verte, c'est les couleurs de Vénus, planète de l'amour, et le rose aussi. Le rouge, pas. Le rouge, c'est la planète Mars. Et Mars en amour, c'est un peu plus compliqué quand même. Et j'ai peur que si vous faites des rituels de magie d'amour avec des bougies rouges, vous allez plutôt générer un amour de désir, un amour sexuel, tandis que la bougie rose va générer un amour sentimental et sexuel sûrement aussi, parce que ça en découle, mais d'avant tout sentimental. Alors vous allez me dire, Mandala, mais la couleur de Vénus, c'est le vert, oui, mais le rose également. Je vais vous expliquer la différence entre les deux. C'est bon que j'y pense, que c'était même pas prévu d'en parler ce soir, que j'ai mis un petit post-it hein, avec les petites phrases et les mots-clés que je partage avec vous, pour et puis après... Je vous explique un petit peu ce que je sais sur le sujet. Mais c'est vrai que Vénus a deux couleurs. La planète Vénus, donc elle a des Vénus, il y a deux couleurs. Le vert et le rose. Le vert, on va utiliser cette couleur-là en magie quand on va invoquer donc Vénus pour des connaissances. Parce que Vénus, c'est la planète de l'amour et de la connaissance aussi. Donc des sciences secrètes et de l'amour et de la beauté et de la sexualité. Comme Aphrodite. Mais sauf qu'il y a aussi la connaissance. Et donc, quand on fait des rituels initiatiques pour découvrir des secrets de grimoire et tout ce qui va avec, ou de connaissances cachées, on va utiliser, bien sûr, des bougies vertes. Mais quand on va invoquer Vénus pour de la magie d'amour, on oublie le vert parce qu'on va pas intellectualiser la chose, c'est pas ça le but. Et donc, on va employer le côté sensuel de Vénus, hein, le côté sensuel et sexuel et amoureux de vénusien. Et donc, là, on va utiliser des bougies roses pour résonner et rayonner et vibrer avec le côté de Vénus, basé sur l'amour, et pas vibrer avec le côté de Vénus basée sur la science et la connaissance. Donc les bougies vertes et tout ce qui est vert, couleur verte, c'est quand on invoque la déesse Vénus et la planète Vénus pour des rituels de connaissance, de savoir et d'initiation. Et quand on invoque Vénus pour l'amour, la sexualité, les sentiments, retour d'affection, tout ce qu'on veut, donc là on emploiera des bijoux, des bougies roses. Et quand on invoque Aphrodite, là c'est par la magie d'Aphrodite bien sûr, là on utilise en plus des bougies donc l'énergie sexuelle. Donc ouais, mais on revient donc à nos ingrédients pour la magie d'amour traditionnelle, donc surtout magie rose. Donc il y aura les bougies rouges, on peut, mais je vous déconseille, moi je suis pour le rose. Donc les bougies roses, la verveine comme plante, c'est une plante de Vénus, la verveine. Donc la verveine sera souvent utilisée aussi pour faire des sachets d'amour, pour faire des potions magiques, des pour bonheur, tout ce qui va avec. Alors comme parfum magique pour les rituels d'amour, c'est le musc. Hein, tous les parfums à base de musc sont très propices donc pour invoquer donc des énergies d'amour. Il y a aussi les talismans d'amour, à cause des objets, des ingrédients qu'on va utiliser en magie d'amour, des talismans, donc des médailles qui vont attirer l'amour. Et porter un talisman d'amour lors de la pratique d'un rituel d'amour, ça peut parfois, dans certains cas, amplifier les pouvoirs de votre rituel. On emploie aussi des dragmes. Les dragmes, c'est une expression que beaucoup, peu de gens connaissent, en tout cas, quand on n'est pas initié. Ce sont des petites poupées en cire. Les dragmes, ils en vendent d'ailleurs dans les bonnes boutiques ésotériques. Et donc, des dragmes, c'est ce qu'il y a de meilleur, parce que cette poupée en cire va représenter la personne que vous voulez vous faire aimer. Donc il y a des poupées en cire de bougie, donc je veux dire qui représentent les hommes et les femmes. Alors dans ces poupées là, vous allez faire un petit trou au niveau de la base pour commencer. Donc on fait toujours un petit trou au niveau de la base, et dans ce petit trou en profondeur, on fait ça. Une petite astuce, on fait ça avec une mèche d'une foreuse par exemple, hein, ou avec un fin crochet ou quoi que ce soit. Et donc quand on a fait ce trou là, dans ce trou, on va y injecter donc des ingrédients de la personne de qui on veut se faire aimer. Alors, quand j'ai des ingrédients, ça peut être une mèche de cheveux, un bout de tissu, des poils, des larmes, du sang appartenant à la personne dont vous voulez vous faire aimer. Et puis on va reboucher donc ce petit trou pied par la cire de bougie qu'on a sortie. Donc on reprend la cire qui reste, qui est tombée à côté, pour reboucher ça, quitte à chauffer un petit peu, pour bien fermer tout. Et puis cette poupée, donc vous allez la baptiser au nom de la personne que vous voulez vous faire aimer, et vous pouvez vous pratiquer tous les rituels que vous voulez dessus, hein, comme pour la rendre l'autre personne amoureuse, comme piquer une épine d'aubépine dans le cœur pour la rendre amoureuse, lui faire des prières, lui parler avec des mots d'amour, lui dire à votre poupée magique, donc à votre drague, tout ce que vous avez jamais osé dire à votre amoureux. Vous voyez, si maintenant un exemple, vous faites tous les soirs, vous allumez à côté de votre bougie, de votre poupée en cire, une bougie rose, hein, donc à côté de votre poupée en cire, vous allumez une bougie rose, un petit peu d'encens de musc, et vous faites tous les soirs une petite prière d'amour, hein, et à Vénus ou à Aphrodite, et vous allez parler à votre poupée comme si vous parliez à votre amoureux, donc vous faire une déclaration d'amour, mais qui vient du cœur. Hein, pas une déclaration d'amour qu'on recite, hein, non, s'il n'y a pas d'émotion, ça sert à rien. Dans n'importe quel rituel, il faut y mettre de l'émotion, de la conviction et de la volonté. S'il n'y a pas ces trois choses-là, émotion, conviction, volonté, votre rituel ne marchera pas. Même les plus puissants rituels du monde, c'est important de le faire avec le cœur, avec ses tripes. Et donc, vous faites une déclaration d'amour, et puis voilà, vous soufflez votre bougie pour l'éteindre, vous coupez votre baguette d'encens, vous faites ça tous les soirs. Et même, je ne dirais même, commencez à la nouvelle lune, comme ça va amplifier plus le rituel, mais vous allez voir que votre amoureux va revenir très vite vous retrouver, et ça sera un amour encore plus puissant qu'avant, ça sera quelque chose de merveilleux. Voilà, une petite astuce. Alors, en parlant de ces drags, on y met des cheveux parfois dedans, donc les cheveux font également partie donc des ingrédients qu'on va utiliser en magie d'amour. Aussi les gouttes de sang, quelques gouttes de votre sang. Il y a plein de filtres d'amour, il faut mettre 3 gouttes de son sang, 3 gouttes tirées de l'annuaire gauche, quoi que ce soit. Il y a aussi la magie sexuelle qui fait partie également donc des rituels de magie d'amour, donc on la considère comme un ingrédient. Parce que la magie sexuelle, c'est pas pour le plaisir de faire crac-crac qu'on fait le rituel de magie sexuelle, parce qu'en général, ce sont des rituels qui se font seuls, hein, bah oui, parce que c'est pour retrouver votre amour perdu. Donc, ça veut dire, c'est des rituels dans lesquels on se donne du plaisir seul. Et donc, je dirais plutôt, c'est l'orgasme. L'orgasme dégagé, donc, au cours de la pratique de la magie sexuelle, sera également un ingrédient, au même titre que le sang, que les gouttes de sang, que les cheveux, que les drachmes, que la bougie rose, que la verveine, que le musc, que les talismans d'amour. Et alors, il y a aussi, une autre substance très puissante, donc là on parle d'orgasme, une autre substance très puissante qui rentre dans les compositions des filtres d'amour. Et là, je suis étonné, j'ai tapé le mot sur internet, on ne le trouve nulle part. Tous ceux qui prétendent s'y connaître en magie d'amour, et ils vous parlent de plein de trucs, ils oublient un ingrédient qui était l'ingrédient le plus puissant au monde pour faire un filtre d'amour. Là, on est dans les filtres d'amour, on n'est pas dans des rituels. C'était l'hypomane. C'est quoi l'hypomane? D'abord, je vais vous dire comment ça se passe. Si vous voulez l'écrire de vous-même, vous n'êtes pas vous tromper d'orthographe. L'hypomane, c'est H-Y-P-O-M-A-N-E. Donc, hypomane. On retrouve donc le terme latin de cheval. Pourquoi? Ben parce que c'est une hypomane, c'est quoi? C'est une peau qu'on trouve sur le front des poulains à leur naissance. Donc, quand un poulain, un jeune cheval, naît, sur son front, il a une peau qu'on enlève, bien sûr, c'est un morceau du placenta, sûrement, un truc comme ça, et on appelle ça dans le jargon, donc, des sorciers de l'hypomane. Cette peau, en général, elle sert à quoi? Mais souvent, la mère du cheval, donc, quand elle a son poulain qui est né, elle va lécher son front et manger cette peau. Et la tradition sorcier dit, à partir du moment que la mère du cheval, du poulain, donc, mange cette peau, elle tombe amoureuse son enfant, tu vois, c'est ce qui va créer l'amour de son poulain, quoi. Donc si elle mange pas cette hypomane, elle risque de rejeter son petit et ne pas s'en occuper. Et en mangeant cette hypomane, elle va être envoûtée d'amour pour sa progéniture, pour son petit poulain, et elle va l'élever, en prendre soin et tout ce qui va avec. Mais les sorciers et les sorcières ont très bien vu le stratagème de l'hypomane, et donc ils ont pris cette peau à la naissance du poulain et la mettre sécher. Ils vont la mettre sécher, donc sur un four ou quoi que ce soit, et quand elle est bien sec, ils vont la réduire en poudre, cette peau, cette hypomane, et alors elle va rentrer dans des compositions de filtres d'amour très puissants, avec de la verveine, des gouttes de sang, tout ce qui va avec. Hein, d'ailleurs, dans mon émission Gottmantica sur le Stradamus, je vous donne aussi quelques recettes donc de filtres d'amour, hein, qu'on avait tiré du grimoire des confitures de Nostradamus. Vous vous rendez compte, c'est un grimoire qui est censé parler de confiture, on y trouve plus de recettes d'amour qu'autre chose. J'ai même dit à l'époque, Nostradamus c'est un petit coquin. Et donc, voilà l'hypomane. Donc, cette peau retrouve sa peau, le front des poulains à leur naissance. C'est ce qu'on appelle l'hypomane, qu'on met sécher, qu'on réduit en poudre et qu'on va mélanger donc dans des potions magiques avec quelques gouttes de son sang, de la verveine et tout, d'autres ingrédients qui vont avec. Et donc, en parlant des ingrédients, les filtres d'amour, bien sûr, font aussi partie donc de tous les ingrédients qu'on emploie dans la magie d'amour. Et alors, il y a la déesse, hein, ça fait partie des ingrédients aussi. Les invocations à la déesse Aphrodite ou à Vénus. Et donc, pour reprendre en résumé tout ce que je viens de dire, les ingrédients souvent les plus souvent utilisés dans les rituels de la magie d'amour, ce sont les bougies roses, les bougies rouges, la verveine, le musc, les talismans d'amour, des drachmes, des cheveux de la personne dont on veut se faire aimer, quelques gouttes de son sang, mais de son propre sang à soi. Là, on est bien d'accord. Donc, du coup, des groupes, des quelques gouttes du sang de la personne qui pratiquera le rituel, de la magie sexuelle, la gerbuto, l'énergie de l'orgasme pour la magie sexuelle, l'hypomane, hein, cette fameuse peau qu'on trouve sur le front des poulains à leur naissance, les filtres d'amour, et alors, bien sûr, la déesse Aphrodite et la déesse Vénus. Voilà donc les ingrédients les plus courants, donc, utilisés dans ce type de rituel. Et par après, donc, je vais vous partager, après un petit morceau de musical quand même, quelques rituels de magie d'amour tirés donc de bons grimoires, des rituels efficaces. Je crois que j'aurai quand même le temps d'essayer de vous en partager trois si l'univers le permet.
Bienvenue dans l'univers de Mandala.
Eh bien voilà, le temps pour moi de sortir de ma bibliothèque donc un de mes grimoires d'amour, hein, donc spécialisé donc en magie d'amour. Eh bien, je veux vous donner quelques recettes. Alors, ce sont des recettes de magie rose, hein, donc très proche de la magie blanche. Donc vous n'en faites pas, hein, ce sont pas des recettes de magie d'Aphrodite. Et si vous voulez des recettes de rituels d'Aphrodite, ben là, il suffit de m'écrire donc à mandala@wikiradio.net. Mais ici donc à l'antenne, je vous partage donc pour ceux qui ont envie de noter quelques rituels de magie rose. Alors, premier rituel, il s'intitule donc pour lui inspirer le désir. Donc voilà, un rituel qui va inspirer le désir chez une personne. Donc là, on est dans le cadre, si vous avez retenu votre leçon, d'un rituel de provocation sentimentale. Donc c'est un rituel issu de la haute de la magie blanche, ils nous disent dans ce grimoire, et il faut réaliser ce rituel en lune croissante. Souvent, les rituels d'amour, vous avez remarqué que c'est souvent réalisé donc en lune croissante, et c'est possible un vendredi, un jour de Vénus. Alors, comme matériel pour ce rituel, il vous faut ceci. Donc une pincée de romarin, 2 cuillères à café de thé noir, 3 pincées de thym, 3 pincées de muscade, 3 feuilles de menthe fraîche, 6 pétales de rose fraîche, et une cuillère à café plutôt de jus de citron. Voilà. Alors, c'est un rituel très light, hein, vous en doutez bien. Ce qui fera le plus effet, c'est les pétales de rose qui sont dédiés à Vénus. Donc, je redonne les ingrédients. Hein, une pincée de romarin, 2 cuillères à café de thé noir, 3 pincées donc de thym, 3 pincées de muscade, 3 feuilles de menthe fraîche, 6 pétales de rose fraîche et une cuillère à café donc de jus de citron. Et le rituel? Eh bien, le rituel, il est simple. Faites bouillir donc pendant une quinzaine de minutes 3 tasses d'eau de source. Hein, donc on fait bouillir pendant une quinzaine de minutes environ 3 tasses d'eau de source. Faites-y infuser donc vos herbes une dizaine de minutes et écrivez donc sur un bout de papier, hein, une incantation suivante. J'infuse cette potion pour une prononce, et puis vous prononcez le nom de la personne que vous désirez l'amour. Donc pendant que vous allez faire bouillir ces ingrédients dans votre marmite, donc dans votre chaudron de sorcière, voilà, hein, pendant au moins une dizaine de minutes, vous allez donc écrire sur un petit bout de papier, voilà, j'infuse cette potion pour que, et puis vous prononcez le nom de la personne de qui vous voulez rencontrer l'amour, me désire. Vous allez plier ce papier en 4. Et le jeter également à votre chaudron. Voilà, parce que là, vous allez jeter à votre chaudron votre désir amoureux qui va se mélanger avec la potion. Alors, quand le filtre est fini, oui, vous avez filtré le tout. Hein, donc, vous allez repasser ça à travers un linge. Par exemple, j'emploie un tissu en coton. On verse le liquide, on filtre le tout et on a un petit filtre d'amour. Alors, ce qui est important, c'est que vous devez en boire aussi quelques gorgées. Donc, vous allez boire quelques gorgées donc de votre filtre d'amour. Et au moment où vous allez boire cette gorgée de filtre d'amour, vous allez dire à haute voix, au moment où vous allez le boire, donc juste avant de le boire, vous allez dire « Dièse de l'amour, entends ma prière et que » prononcez donc le nom de votre bien-aimé ou de votre amoureuse ou amoureux. Et donc, vous prenez son nom et vous déterminez par « me désire » et qu'il en soit ainsi. Donc, « Dièse de l'amour, entends ma prière que » vous prononcez son nom, « me désire » qu'il en soit ainsi. Et puis, vous buvez donc quelques gorgées de votre filtre d'amour. Et vous allez recommencer donc ce rituel durant 3 vendredis soirs. Donc, durant les 3 vendredis qui vont suivre, vous allez recommencer le même rituel et vous aurez donc, après le 3e vendredi, réussi donc à déjà faire penser la personne qui vous aime à vous. À partir du 3e rituel, elle va commencer à repenser à vous. C'est pas fini, parce que vous allez garder un petit peu de votre filtre d'amour, parce que vous allez faire 3 fois le rituel, et dès que vous avez l'occasion de rencontrer la personne que vous aimez, hein, suite à ce rituel de filtre d'amour, vous allez donc lui faire boire quelques gouttes également dans une boisson, ou si vous ne savez pas lui faire boire quelques gouttes dans une boisson, essayez d'en déposer légèrement sur vos lèvres, hein, de ce produit-là, au moment de lui faire un bisou, hein, vous allez l'embrasser, ou faire un bisou, ou quoi que ce soit, il faut qu'il y ait un contact, ou bien vous en mettez sous votre main, et vous lui touchez la main, mais donc il faut que cette potion arrive à toucher votre bien-aimé, donc on peut la faire, lui transmettre par un bisou, par une poignée de main, par tout ce que vous voulez. Et à ce moment-là, l'amour va renaître chez elle aussi. Alors, deuxième rituel pour attirer l'amour. C'est un rituel ici pour protéger votre couple. Là, l'amour est déjà installé, vous êtes en couple, et il y a parfois des petits orages qui arrivent, donc comme ça peut arriver un petit peu partout. Donc c'est une recette de magie populaire, nous dit le grimoire, et ça se pratique un vendredi en lune montante. Donc toujours en lune montante également, très important de retenir ça. Et là, pour ce rituel, donc pour protéger son couple, hein, donc on peut protéger son couple des petites disputes, mais on peut protéger son couple aussi d'un rival. Hein, ouais, s'il y a quelqu'un qui essaye de draguer votre bien-aimé ou votre, enfin ouais, masculin ou féminin, hein, ou quoi que ce soit, bien vous pouvez protéger votre couple aussi. C'est une protection du couple, donc on peut rien faire. Je vais même vous dire, vous pouvez même protéger votre couple contre une belle-mère. Vous avez une belle-mère un peu trop intrusive qui vient parfois créer des problèmes. Eh bien même contre ça, ça le protège aussi. Donc le matériel. En matériel, il vous faut une bouteille en verre, donc des pétales de fleurs fraîches, des herbes comme de la menthe, du romarin et du thym, deux cuillères à soupe de miel, de l'alcool, environ 250 ml, et une bougie rose. Donc je redonne les ingrédients pour ceux qui n'ont pas le temps de noter. Donc une bouteille en verre, des pétales de fleurs fraîches, des herbes de menthe telles que des herbes comme la menthe, le romarin et le thym, de cuillères à soupe de miel, de l'alcool de 250 ml et une bougie rose. C'est écrit en tout petit dans ce grimoire, et en plus écrit à la main, donc pas facile à lire. Et le rituel, ben le rituel est très simple, hein, vous remplissez donc la bouteille avec des fleurs, hein, une à une bien sûr, et vous mettez ensuite les herbes en pensant à l'amour, donc en pensant à la personne de qui vous voulez vous faire aimer. Vous allez mélanger ensuite dans cette bouteille également de l'alcool et le miel avant de verser le tout donc sous les herbes et sur les fleurs. Remplissez enfin donc la bouteille d'eau et cachetez-la soigneusement donc avec de la cire de bougie rouge. Vous savez, cette cire de bougie à cacheter, on en trouve dans beaucoup de boutiques ésotériques, donc ça sera pour sceller la bouteille. Et puis vous allez prendre cette bouteille dans vos mains et vous allez dire à haute voix: j'ai rempli ma bouteille des pensées d'amour. Elle y reste maintenant et pour toujours. Elle protège mon amour et mon couple, et qu'il en soit ainsi. Et lorsque vous vous sentirez mal dans votre couple, ou bien que vous vous sentirez mal aimé, par exemple, eh bien vous allez agiter votre bouteille doucement pour réactiver donc l'enchantement qui est dans votre bouteille, et l'amour renaîtra donc également, ou en tout cas s'amplifiera donc au niveau de votre couple. Alors à court, un petit rituel, hein, comme on dit, un dernier pour la route. Hein, je peux vous en donner plus, mais enfin, j'ai pas passé une émission, vous n'avez que des rituels. Si vous en voulez plus, vous pouvez me contacter, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et donc, un rituel qui est un sortilège tiré du grimoire de la poule noire. Alors, il y a un grimoire, donc j'en ai déjà parlé d'ailleurs dans nos livres où on conseille les grands livres de la magie à avoir dans sa bibliothèque de sorciers et de sorcières. Il y a la poule noire qui est un grimoire, certains vont me dire, de magie noire. Pas du tout. Pas du tout. Faut pas se fier au titre. Donc c'est le sortilège de la poule noire. C'est de la magie de grimoire. Donc, et ça se fait par une nuit sans lune. Donc c'est une nuit de lune noire. Hein, quand on dit la nuit sans lune, au calendrier, c'est la fameuse lune noire. Premier de la lune montante d'ailleurs, et de la lune croissante, plutôt, au milieu de la lune croissante également. Donc, par une nuit de 100 lunes, donc, c'est la version art, au fait, hein, que je vous donnais, de la pomme d'amour du Grand Albert. Donc, on retrouve la version beaucoup plus art dans le Grand Albert, et donc, c'est la fameuse pomme d'amour, mais ça, c'est tiré donc du grimoire de la poule noire. Et est extraite donc d'un des plus terrifiants. Ils nous disent grimoire de la poule noire. Moi, je trouve pas qu'il est terrifiant, ce grimoire. Mais enfin, si d'autres grimoires le nomment comme terrifiant, on va l'admettre. Hein, on va admettre que c'est terrifiant. J'ai eu des grimoires plus terrifiants que ça, par exemple. Hein, je sais que je vais en faire bondir certains. Je pensais au Necronomicon. Ah, ben oui. Donc, je reviens à mes moutons. Donc, sur l'âge d'amour tiré de la poule noire à faire une nuit sans lune. Matériel. Je vous donne deux fois donc le matériel. Comme ça, vous aurez le temps de bien noter. Donc, une chandelle de couleur noire. De l'encens d'Aouji noir, donc Jaouji noir, donc ça s'écrit D-J-A-O-U-I, donc Jaouji noir, donc l'encens d'Aouji noir, une pomme rouge, un peu de miel, une pincée de poivre noir, un bout de fil noir assez long pour faire cinq fois donc, le tour de la pomme. Donc je redonne les ingrédients. Une chandelle noire, de l'encens d'Aouji noir, une pomme rouge, donc heureusement qu'on dit pas une pomme noire, parce que tout a l'air bien noir dedans. Un petit peu de miel, une pincée de poivre noir, un bout de fil noir assez long pour faire cinq fois le tour donc de la pomme. Alors, je sais bien pourquoi ils emploient la couleur noire, que c'est un rituel qui est basé donc sur le principe de la magie de Lilith et donc qui va créer surtout un désir sexuel donc chez la personne qui pour qui vous avez pratiqué ce rituel. Et le rituel, comment il fonctionne? Eh bien, prenez votre pomme et à la lueur d'une chandelle donc est sous les effluves de l'encens, coupez-la en deux. Creusez-la doucement à son centre et sans y transférer bien sûr le fond, donc sans y casser le fond. Enlevez ensuite donc juste assez de chair pour y introduire un petit bout de papier avec le nom de celui ou celle que vous vous désirez donc récupérer en amour. Remplissez ensuite la cavité de votre pomme de miel et de poivre et puis remettez donc dessus hein, le dessus de la pomme. Donc vous voyez ce que je veux dire, vous faites un trou dans la pomme en profondeur par le dessus, hein, un trou cylindrique, c'est plus simple. Et donc dans ce trou cylindrique, mais sans traverser la pomme. Donc il faut qu'il y ait un plancher au fond de votre trou. J'essaye d'être visuel, parce qu'on est en radio, donc j'essaye de créer un visuel en vous. Donc on prend cette pomme, on fait un trou dedans, on garde un petit fond dans le trou, hein, on n'enlève que le haut. Et puis donc, quand on a enlevé la chair du haut, on va mettre dedans un petit bout de papier avec le nom de celle de qui on désire se faire aimer. On va remplir ensuite la même cavité de la pomme avec du miel et du poivre. Remettez dessus donc le petit bout de la pomme que vous avez coupé. Il sera trop long, donc on le raccourcit, mais on le met comme bouchon sur le trou de votre pomme. Et enfin, donc, entourez la pomme de fil noir afin de lier donc celui que vous désirez en disant à haute voix. Astaré fait que maître aimé me revienne, donc fait que l'être aimé me revienne. Ils ont fait une petite faute dans le grimoire, ils ont mis un M apostrophe au lieu d'un L apostrophe. Donc Astaré fait que l'être aimé me revienne, qu'il ou qu'elle soit lié donc à moi, comme j'entoure ce fruit, qu'elle vienne à moi et que je puisse qu'elle ne puisse plus jamais me résister. Donc je redonne la formule magique encore, c'est écrit à la main, donc je peux comprendre que l'auteur a fait une petite faute je vais pas dire de frappe mais d'écriture. Donc Astaré fait que l'être aimé me revienne, qu'il ou elle soit lié à moi comme j'entoure ce fruit par ce fil, qu'il ou qu'elle vienne à moi et que me puisse plus jamais me résister. Et puis vous allez enterrer cette pomme dans votre jardin. Et là, c'est plutôt Astaré. Donc Astaré qui est toujours, c'est la magie de Lilith. Hein. Croyez-moi, même si on invoque Astaré, c'est la magie de Lilith, hein, lune noire, tout ce qui va avec. Hein. J'ai très bien compris. Mais Astaré aussi est une entité donc qu'on peut invoquer donc pour l'amour. Mais là, on est plus dans un amour de désir sexuel. Donc je pense qu'avec ce rituel là, si votre bien-aimé ou votre bien-aimé masculin ou féminin revient vers vous, voilà, ce sera plutôt en mot chaud lapin que j'ai pas qu'il y a pas de mot amoureux à les deux bien sûr, mais enfin voilà, les autres c'était quand même plus soft. Et pourtant, on n'est pas au cours de la magie d'Aphrodite, hein, croyez-moi, c'est beaucoup pire la magie d'Aphrodite. Allez, petite pause musicale maintenant. Qu'est-ce que je pourrais vous passer? Ah, du midrime. Tiens, j'en ai pas encore passé aujourd'hui. J'ai envie de vous passer un petit midrime. J'aime bien ce côté harpe, et puis ça me met un petit peu dans les conditions aussi, parce que comme vendredi prochain, on va parler de magie la magie des druides, des celtes et tout ce qui va avec, eh bien on va se mettre un petit peu donc dans l'ambiance avec Midrim.
Tous les vendredis soirs, 21h-23h, c'est Mandala Chakra sur Witches Radio.
Le replay, ça s'est passé sur Witches Radio.
Witches Radio.
Godmantica en podcast.
En tout cas, donc, pour résumer tout ce qui a été dit, retenez une chose importante, c'est qu'en amour, plus un rituel paraît simple à réaliser, moins il sera efficace. J'en avais parlé au début de l'émission, mais j'ai envie de vous le répéter, donc, en conclusion, parce que c'est une loi de la magie essentielle à retenir. Donc, en magie d'amour, plus un rituel paraît simple à réaliser, moins il sera efficace. Pourquoi? Parce que les principes de la magie d'amour sont basés, donc, sur le don de notre énergie amoureuse. Et donc, plus le rituel est compliqué ou complexe à réaliser, plus on va y donner, donc, du don de soi, du don de notre énergie amoureuse, et c'est en récompense à cela que donc le rituel fonctionnera. Et je suppose que quand vous faites un rituel d'amour, l'espoir qu'il y a derrière, c'est qu'il fonctionne. Donc ne bannissez déjà tous les rituels trop simples à réaliser, parce que souvent on est tenté par la facilité, mais la facilité ne mène à rien. Vous savez bien que c'est en voulant vraiment les choses, en se battant et en s'investissant dans les choses, qu'on finit par obtenir quelque chose. Et donc si vous voulez que ça fonctionne, hein, déjà ne vous orientez pas vers des rituels trop simples. Et si le rituel vous paraît trop compliqué, c'est pas grave, vous pouvez vous faire aider par un ami ou une amie sorcier ou sorcière, hein, voilà. Si vous dites, oh, mais ce rituel-là, il est compliqué, mais je m'y connais pas assez en magie pour oser le faire ou le faire tout simplement. Eh bien, voilà, c'est de trouver dans votre entourage un ami sorcier, une amie sorcière ou quelqu'un qui s'y connaît un peu plus que vous pour vous aider, hein, pour lui demander de l'aide. Un rituel, il n'y a pas de mal à ça. Bien au contraire, hein, un rituel, plus on est nombreux à le réaliser ensemble, on tombe dans le contexte dans ce cas-là de la magie cérémonielle et en même temps, donc, ça amplifie les pouvoirs du rituel. On est bien d'accord. Hein, ça s'additionne à ce niveau-là, donc il sera encore plus puissant. Et pratiquer seul ou pratiquer à plusieurs un rituel de magie d'amour ou n'importe quel rituel, eh bien, l'énergie du rituel sera amplifiée par le nombre de personnes qui y participent. Alors, on va changer un petit peu de sujet. D'ailleurs, j'ai reçu aussi quelques messages de Romuald que je salue d'ailleurs au passage. Et je vais pas les lire tous parce que c'est des petites phrases qu'il m'envoie comme ça. Mais il nous dit ici, en tout cas, donc ça me fera un bon cocktail, comme je serai amoureux de moi en attendant. Ça veut dire qu'il est seul et qu'en attendant, il va faire le même rituel que j'ai donné comme cocktail parce qu'il, pour qu'il tombe amoureux de lui. Alors, Romuald, tu vas être content parce que, maintenant, je vais parler un petit peu, il reste du temps, donc, des âmes sœurs, donc, et de la métaphysique des âmes sœurs. Il faut savoir, je m'adresse à Romuald, mais à tous les auditeurs qui m'écoutent en ce moment, on a tous sur Terre une âme sœur. Une âme sœur, c'est quoi? Ben, c'est notre côté qui nous complète. Ça veut dire que tous les hommes ont un côté féminin en âme sœur et toutes les femmes ont un côté masculin en âme sœur, qui est quelque part dans la nature, sur notre planète. Parfois, on le rencontre dans notre vie et parfois, on ne le rencontre pas. Ça peut arriver. Hein, parce que le destin est cruel. Et si on n'a pas rencontré notre âme sœur, c'est pas grave parce que de vie en vie, le but, c'est de nous rapprocher. Et donc, parfois, on le loupe dans une vie, et dans une autre vie, on peut le rencontrer. Vous allez me dire, ça fait une belle jambe, parce que c'est dans cette vie-ci que vous avez envie de rencontrer votre âme sœur. Je vous comprends. Et donc, dans ce cas-là, pour donner le petit coup de pouce pour rencontrer son âme sœur, mais il y a beaucoup de rituels de magie aussi qui sont repris dans les livres que je vais vous donner donc à la fin de l'émission. Et donc quand vous pratiquez de la magie des âmes sœurs, qui est une sorte de magie de provocation sentimentale, le but c'est peu importe où votre âme sœur se trouve sur Terre, vous allez faire le petit coup de pouce, le petit claque dans l'univers. Vous savez, je le fais même avec une voix pour le montrer le petit bruit dans l'univers. Pour que l'âme sœur résonne en vous, il va y avoir une sorte de contact métaphysique entre vous, le destin, l'univers, certains diront la théorie du secret, même tout à fait, ils ont raison, va faire que vous allez vous rapprocher les uns des autres et faire votre la connaissance. Et là, évidemment, c'est quelque chose de très puissant. Ceux qui ont déjà eu l'occasion de rencontrer leur âme sœur, hein, ils savent de quoi je parle. Alors, une âme sœur, c'est pas forcément une amoureuse. On peut avoir une âme sœur amoureux, ça peut être très puissant, mais ça peut être une amitié très puissante aussi. Ah bah oui, hein, l'amour a plusieurs facettes, hein, on est bien d'accord. Et si c'est une amitié puissante, ça veut dire que votre âme sœur n'est pas encore prête pour vivre un moment d'amour puissant dans cette vie-ci. Hein, ben, et donc, ce sera reporté à une autre vie. Alors, c'est quoi, à quoi sert une âme sœur? Ben, parce que les âmes, quand elles ont chuté sur Terre, elles ont été divisées en deux, donc, en mâle et en femelle. Hein, j'ai peut-être cru comme nom, mais je peux dire homme ou femme, mais je vais plutôt dire mâle et femelle, parce qu'on s'adresse quand même sur des âmes. Et donc, les âmes, ils essaient de récupérer ce qu'on appelle leur seconde moitié. La seconde moitié, c'est quoi? Ben, c'est l'âme sœur, quoi. Donc, que ce soit un homme ou une femme, on cherche notre seconde moitié. Et donc, de vie en vie, on aura des parcours qui vont essayer de remettre les deux moitiés ensemble. Et quand les deux moitiés seront réunies de manière métaphysique, l'homme pourra évoluer, donc, vers ce qu'on appelle l'ascension. Quand je dis l'homme, je parle de l'être humain. Hein, on est bien d'accord. Hein, c'est pas du sexisme. Hein, mais quand je dis l'homme, je parle de la créature. Donc, de l'homme, de l'être humain. Et donc, si vous voulez en savoir plus sur cette fameuse ascension, ben, réécoutez mon ancien podcast au-delà, hein, qui sera bientôt publié. D'ailleurs, dès qu'Alina m'aura envoyé le montage, je vais le mettre donc en écoute sur le site de Witchish Radio. Là, j'explique tout ça en détail, donc je n'ai pas reparlé de l'au-delà et de l'ascension de cette émission aussi. Mais je vais surtout parler des âmes sœurs. Et donc, si vous trouvez votre seconde moitié, donc votre âme sœur, que ce soit comme meilleure amie ou comme amoureuse, hein, dans les deux cas, vous allez vivre quelque chose d'extraordinaire ensemble, et ça va vous faire évoluer métaphysiquement. Vous savez que vous allez évoluer spirituellement, métaphysiquement, parce que vous allez vous compléter, et donc ça va vous ouvrir des nouveaux horizons à la vie, des nouveaux dons, des nouvelles choses, voilà, des choses merveilleuses. Je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est la magie des âmes sœurs, et puis j'en ai déjà tellement traité donc dans le Godmantica sur l'au-delà, tout ça, je ne vais pas revenir à ce niveau-là. Mais voilà, quand on a une âme sœur, on est sûr que c'est parti pour la vie. Souvent, quand il y a des séparations, des divorces ou quoi que ce soit, ça peut être des problèmes de couple, bien sûr, mais avec un âme sœur ou une âme sœur, c'est là, c'est ça en amitié, c'est une amitié pour toute la vie. C'est une amitié, comme on en rencontre rarement, mais qui est très puissante. Et si c'est en amour que votre relation s'établit, c'est un amour pour toute la vie. Donc ça peut varier entre l'amitié et la vie. Et ça sera toujours une personne du sexe opposé à vous. Et donc c'est pour ça que je dis que ça peut être de l'amitié aussi. Je vais prendre un exemple. Si vous êtes plutôt, j'essaie de trouver des mots modernes, hein, pour vous dire, voilà, vous êtes plutôt attiré par les hommes ou attiré par les femmes. Il y a des hommes attirés par les hommes, il y a des femmes attirées par les femmes. Donc vous avez plutôt envie de vous mettre en couple avec une femme, si vous êtes attiré par une femme ou avec un homme, si vous êtes attiré par les hommes, hein. Et donc dans ce cas-là, ben votre âme sœur ne sait pas devenir votre amoureuse. Alors ça deviendra votre meilleure amie. Voilà. Donc ça sera toujours quelqu'un du sexe opposé, ça deviendra votre meilleure amie. Voilà. De mon côté, ça sera plus simple parce que comme je suis attiré par le sexe opposé, donc je suis un homme attiré par les femmes. Donc en théorie, mon âme sœur doit être féminine aussi. Donc voyez la complexité des choses, mais ne vous en faites pas parce que je sais bien que je reçois souvent des mails après. Comment est-ce qu'on fait si on est homo et qu'on est attiré par les hommes? Est-ce qu'on fait pour rencontrer notre âme sœur féminine qui est féminine? Ah ben, ça devient votre meilleure amie. Voilà, comme petite sœur, tout ce que vous voulez, hein, sera à vos côtés. Et c'est aussi puissant. Vous savez, l'amour a plusieurs facettes de l'amour. L'amour universel, c'est la boule à facettes complète. Quand moi je parle d'amour universel, je parle pas que d'un petit carré de la boule à facettes, je prends de la boule à facettes en général, ça c'est l'amour universel. Et maintenant il y a plusieurs facettes, hein. Je vais pas vous refaire la théorie de mes saucissons et de l'amour, hein. J'en parle dans une autre émission aussi. Je vais une fois la ressortir, ça, les différentes facettes de l'amour. J'avais pris comme exemple un saucisson qu'on coupe en tranches, mais je vais pas refaire maintenant parce qu'on a plus trop le temps. Et je suis sûr, certain, que vous êtes impatients que je vous partage donc quelques bons livres sur la magie d'amour qui vont vous permettre d'en apprendre beaucoup plus sur le sujet. Eh bien, on s'offre encore un petit mid-rime pour la fin. Et après, donc, on entame les livres. En tout cas, j'en ai sélectionné 3 qui valent la peine d'être lus, et surtout, en tout cas, d'avoir dans votre bibliothèque de sorciers ou de sorcières. Et bien, donc, comme promis, hein, quelques livres sur la magie d'amour pour vous permettre de pratiquer, mais surtout de comprendre donc ces principes. Premier livre donc que j'ai envie de partager avec vous. Voici le titre, c'est Guide pratique de la magie d'amour. Facile à retenir, hein, c'est un titre qui parle de lui-même, donc le guide pratique de la magie d'amour. L'auteur, c'est Alexandre Travoff. Donc ça, c'est Alexandre Travoff, mais Travoff, ça s'écrit T-R-A-V-O-2-F. Donc il y a deux F, donc c'est Travoff avec deux F, donc Alexandre Travoff, c'est l'auteur. Et l'éditeur, c'est Crystal EDS. Donc l'édition de ce livre, c'est Crystal EDS. Je l'ai vu sur Amazon, pas trop cher, c'est environ une douzaine d'euros, donc ça va, c'est encore raisonnable pour un livre. Alors si vous voulez un petit résumé, donc ça nous dit amour, désir, sensualité, aucun aspect de la vie amoureuse n'est ici passé sous silence. Ce livre vous donne donc tous les moyens pour vous forcer les portes du destin et de vous accomplir donc dans une vie affective et sexuellement riche. Que vous recherchez donc l'homme ou la femme de votre vie, que vous désirez aimanter vers vous un être en particulier, dynamiser l'érotisme conjugal, susciter un désir irrépressible chez celui ou celle que vous avez choisi, connaître une vie sensuelle explosive, eh bien, voilà, c'est ce livre qui vous est conseillé, donc le guide pratique de la magie amoureuse d'Alexandre Tarboff, dans les éditions donc Crystal EDS. Un second livre qui est plus conseil pour les personnes averties, là, pour les sorciers et les sorcières qui ont déjà des kilomètres de pratique au compteur, hein. C'est un livre qui traite de magie sexuelle. D'ailleurs, ça, le titre parle de lui-même, hein. C'est un livre de magie d'Aphrodite, hein, on s'en doute, hein. La magie sexuelle, bréviaire des sortilèges amoureux. Ah voilà, le titre parle de lui-même. Donc, je suis pas sûr qu'il soit complètement d'Aphrodite. J'ai pas l'occasion de le lire, mais on me l'a conseillé. Beaucoup de sorciers m'ont conseillé, et de sorcières aussi, en disant Mandala, tu peux le citer. Hein, ce livre, il est digne de la magie d'Aphrodite aussi. Donc, la magie sexuelle, bréviaire des sortilèges amoureux. L'auteur, c'est Saran Alexandrian. Donc, Alexandrian, c'est Alexandrian. J'ai toujours envie de le dire en irlandais, le truc, je vais le dire en français. Donc, Sargan Alexandrian, édition donc Musardine, voilà, édition de Musardine. Et alors, un petit résumé du livre, ça nous dit que depuis la nuit des temps, donc à travers l'emploi des talismans et des filtres d'amour, eh bien, ou de rituels et de pratiques astériques, eh bien, les hommes et les femmes donc usent de magie sexuelle. Ils détournent donc la sexualité et la procréation ou le plaisir donc en vue d'acquérir donc des pouvoirs et d'agir donc sur la réalité, favoriser la vie amoureuse, vaincre l'impuissance, empêcher l'infidélité, se faire aimer de quelqu'un ou encore donc trouver l'extase. de l'Antiquité à nos jours, donc cet ouvrage donc se présente comme une sorte de catalogue raisonné donc de la magie sexuelle, des sortilèges et envoûtements. Et Sarane Alexandrian, donc c'est une femme, vous entraîne à la découverte donc des techniques et des pratiques, l'art de faire l'amour avec des créatures invisibles ou celui de chevaucher le tigre, la magie blanche de l'amour, sans oublier bien sûr la sexualité sacrée et le grand œuvre de la chair. Entaillé donc par une documentation inédite d'une grande érudition, nous dit ce livre, voici donc une histoire de la magie amoureuse, bien loin du folklore qui met en lumière donc les individus et les groupes qui l'ont pratiqué en pleine conviction. Et donc je redonne les coordonnées de ce livre, c'est La magie sexuelle, le bréviaire des sortilèges amoureux. L'auteur c'est Sarane Alexandrian et ce livre on le trouve dans les éditions La Musardine. Voilà, donc premier livre c'est un livre de magie rose, deuxième livre un livre de magie d'Aphrodite. Et le troisième livre, ben, un livre sur la déesse Aphrodite elle-même. Ah, bah oui, maintenant que je vous parle de magie d'amour, de magie d'Aphrodite, il y a un livre, dédié à la déesse Aphrodite, mais qui reprend, en plus des rituels, la magie d'amour d'Aphrodite. Donc voilà. Titre du livre. Aphrodite, déesse de l'amour. L'auteur, c'est Iriane Del. Donc, Iria. Iriadel, donc Iriadel, et on trouve ce livre dans les éditions Danae. Alors, petit résumé, comprenez, donc, et actionnez la plus puissante des énergies déesse, donc grecque de l'amour, de la sexualité, des plaisirs et de la beauté, Aphrodite, également connue sous le nom de Vénus chez les Romains. Comme parmi les 12 grands dieux donc de l'Olympe, Aphrodite, maîtresse de l'amour, offre un regard moderne, tant théorique que pratique, sur cet incontournable personnage de la mythologie. Iriadel, donc l'auteur du livre, livre dans cet ouvrage donc les clés de la compréhension pour aborder Aphrodite de façon sincère, tout en se préparant donc à pratiquer une magie de l'amour profonde et alchimique. Elle y construit donc ce qui nous sabote dans nos cheminements amoureux pour proposer ensuite donc des rituels de transformateurs pratiquants et puissants, enclencher donc l'initiation amoureuse aux côtés d'Aphrodite. Découvrez donc une Aphrodite sombre, intemporelle et exaltée, nous dit le livre, qui vous invite donc à travers ce livre à la rencontre de vous-même et de la flamme vers laquelle donc cette puissante déesse vous proposera donc de vous accompagner. Aphrodite, donc déesse de l'amour, c'est le titre du livre. L'auteur, c'est Iriadel, et on trouve ce livre dans les éditions Danae. Voilà. Comme ça, vous savez tout, même quelques bons livres pour poursuivre l'émission si le sujet vous intéresse. Et puis, n'oubliez pas, hein, si vous avez des questions sur la magie d'Aphrodite ou la magie d'amour en général, hein, je suis toujours disponible, même après l'émission, ou si vous écoutez le podcast bien plus tard, c'est toujours la même adresse, mandala@wikiradio.net, mandala@wikiradio.net, ou alors vous pouvez aussi utiliser donc le formulaire de contact de mon site internet perso. Hein, donc, mon site internet perso, c'est wikiradio.net, hein, vous êtes sur wikiradio.net, vous cliquez sur le bouton contact, et là également, donc, vous pouvez m'envoyer quelques petits messages, ils sont toujours les bienvenus, et comme je dis toujours, je réponds tout le temps aux messages que je reçois. Donc, si un jour vous m'écrivez un message, et vous n'avez pas de réponse de ma part, ben, c'est tout simplement, ou que moi j'ai pas eu votre message, ou que vous avez pas eu ma réponse, mais sinon, je réponds toujours à tous les messages qu'on m'envoie. À condition qu'il y ait des questions, qu'il y ait de quoi répondre aussi. Si vous me dites juste un petit coucou, bonjour Mandala, je peux toujours vous répondre bonjour à toi aussi. Mais voilà, s'il y a des questions, s'il y a des partages, ou vous pouvez même partager aussi des événements que vous avez vécu, demander des conseils, je suis toujours disponible, hein, pour ceux, celles qui me connaissent, vous savez bien que, voilà, un mot, un geste, et Mandala fait le reste. En tout cas, donc, je tiens à tous et à toutes à vous souhaiter une belle soirée, hein, profitez bien de ces préparatifs, donc, de la célébration des Samhain, hein, on y approche, hein, sabbat de Samhain, c'est préféré, hein, moi aussi je vais plonger dedans, hein, avec tout cet univers de sorciers et de sorcières, et j'ai envie de faire un petit coucou ce soir aussi à une amie qui m'écoute peut-être ce soir et qui se fait mal, elle est tombée donc cette semaine, elle s'est égratignée le visage, je l'ai vu, c'est comme des gros bobos, hein, voilà, c'est quand même pas, elle a eu de la chance de pas que ça soit pas plus grave, elle va beaucoup mieux, je vous rassure, mais je voulais lui faire un petit coucou pour lui souhaiter un prompt rétablissement encore, voilà, hein, j'ai pas lui de prononcer son nom sur l'antenne parce qu'elle a peut-être pas envie que je parle d'elle, mais je lui envoie plein de gros bisous pour qu'elle se rétablisse très vite de sa petite chute. Je crois qu'elle va déjà beaucoup mieux de toute façon. Mais voilà, elle a eu beaucoup de chance et tant mieux pour elle. À bientôt mes amis, c'était Mandala Chakra avec vous dans Godmantica.
Mandala Chakra. Godmantica.